crois que c'est bon, je suis à l'heure là. Ouais, voilà. Donc ce soir, je présente Frédéric Daigne, qui est astrophysicien ici à l'Institut d'astrophysique de Paris et qui y a fait sa thèse donc en 1999 sous la direction de Robert Moscovitch, que vous avez déjà vu et entendu. Et donc le sujet était les sursauts gamma, thématique que vous allez retrouver ce soir, dont il est le spécialiste, un des spécialistes, et qui, à la suite de cette thèse, n'a pas intégré directement l'IAP immédiatement. C'est toujours bon d'aller faire un petit peu un tour ailleurs, voir ce qui se passe. Et effectivement, il a obtenu un postdoc au Max Planck Institute für Astrophysik, c'est ça, à Munich. C'est intéressant, c'est un endroit où vous avez un Max Planck d'un côté, qui est un institut de recherche, et de l'autre côté, on traverse la rue, et on trouve l'ESO, qui est l'Observatoire européen de l'hémisphère sud, donc, dans le quartier général, le quartier scientifique, se trouve donc à une encablure. Donc on imagine que c'est un vivier absolument enrichissant pour la recherche. Donc je pense que là, Frédéric Daigne ne s'est pas du tout ennuyé et a enrichi son expérience. Et puis, suite à ce postdoc, on le retrouve au CEA à Saclay, où il continue à travailler sur des thématiques voisines, donc reliées au thème des hautes énergies. Il obtient donc un poste de professeur à l'UPMC, où il enseigne maintenant. En particulier, il s'occupe, pour le cas où il y aurait des jeunes futurs chercheurs, futurs astronomes, il s'occupe du Master 2 d'astronomie. Et voilà, à part ce travail de recherche qu'il mène activement, eh bien, il ne dédaigne pas du tout de donner des conférences et écrire des articles de vulgarisation. On le retrouve assez souvent, même presque à chaque fois, lors des opérations de porte ouverte de l'IAP en particulier. Et toute cette activité se fait avec une casquette supplémentaire, qui est celle de directeur adjoint de l'Institut d'astrophysique de Paris, en collaboration avec Karim Ben Abed. Voilà, donc c'est avec grand plaisir que je te laisse la parole pour nous parler des sursauts gamma. Merci.
Bien, merci beaucoup, Daniel. Bonsoir à tous. Je vais donc ce soir vous parler des sursauts gamma. Et comme mon titre l'indique, les sursauts gamma, nous allons le voir, apparaissent comme des explosions de certaines étoiles particulièrement puissantes, tellement puissantes qu'on peut les observer dans l'univers très lointain. Donc avant de vous parler vraiment de sursauts gamma, je vais commencer par vous rappeler brièvement ce que deviennent les étoiles normales à la fin de leur vie, parce que pour essayer de comprendre l'exception, il faut déjà avoir quelques indications sur la règle habituelle. Et puis on verra que ces explosions, elles sont détectées en premier lieu, et là aussi le nom du phénomène l'indique, non pas dans la lumière visible, mais dans le domaine des rayons gamma. Donc en introduction, je dirais aussi un ou deux mots sur les spécificités de l'astronomie dite des hautes énergies, c'est-à-dire l'astronomie des rayons X et des rayons gamma. Alors donc, je commence avec quelques informations sur la vie et la mort des étoiles. Alors une étoile comme le Soleil, essentiellement, en ce moment, évolue très peu, et ça va continuer comme ça pendant pas mal de temps. Essentiellement, l'étoile convertit en son cœur de l'hydrogène en hélium par fusion nucléaire, ça libère de l'énergie qui chauffe donc le cœur, et ensuite cette énergie est transmise jusqu'à la surface par les photons qui diffusent dans l'étoile et qui arrivent à la surface et l'étoile rayonne. Et ce processus n'est pas très efficace. Quand on regarde l'efficacité de la fusion nucléaire dans le Soleil, dont j'ai donné pour les connaisseurs l'équation ici, eh bien, on s'aperçoit qu'en termes d'énergie de masse, vous savez tous qu'à une masse, on peut affecter une énergie MC2, eh bien, en termes d'énergie de masse, cette réaction n'extrait que moins de 1% de l'énergie disponible. Ça va durer assez longtemps, typiquement pour une durée totale de l'ordre de 10 milliards d'années pour le Soleil, il reste à peu près la moitié du temps. Et ça, c'est très agréable parce que c'est un des grands succès de l'astrophysique du XXe siècle, c'est qu'au début du XXe siècle, on n'avait pas la moindre idée de comment ça fonctionnait, et à la fin du XXe siècle, on sait, et on a même une preuve directe, parce que dans le cas du Soleil, on a pu détecter les neutrinos émis par le Soleil qui sont associés à cette réaction. À chaque fois que 4 protons produisent un noyau d'hélium, eh bien, on produit 2 neutrinos électroniques. Alors, je vous montre une image récente qui a été obtenue par le détecteur Super Kamiokande au Japon, qui est donc un détecteur de neutrinos. La difficulté des neutrinos, c'est que ce sont des particules qui n'interagissent avec la matière que par interaction faible. Et comme son nom l'indique, l'interaction faible est très faible, donc les interactions sont très rares. Et la majorité des neutrinos que nous envoie le Soleil, qui sont très nombreux, hein, c'est à peu près 60 milliards de neutrinos par seconde et par centimètre carré, donc pendant qu'on parle, vous pouvez calculer combien de neutrinos solaires vont vous traverser pendant la conférence, c'est un nombre astronomique, eh bien, en fait, si vous calculez, chacun d'entre nous, on est des très mauvais détecteurs de neutrinos. La probabilité qu'un neutrino interagisse avec un noyau de notre corps pendant notre vie est quasi nulle. En fait, il faut vraiment mettre le paquet pour détecter les neutrinos. Et donc, dans le cas de Super Kamiokande, on construit une énorme piscine, et de temps en temps, très rarement, un neutrino va interagir avec un noyau de la molécule d'eau, et va produire une particule relativiste qui va aller plus vite que la vitesse de la lumière dans l'eau, parce que dans l'eau, la lumière va moins vite que dans le vide, et ça va produire ce qu'on appelle de la lumière Cherenkov, qui est une lumière bleutée, et vous voyez que la piscine est tapissée par des photodétecteurs qui cherchent donc à détecter cette lumière bleutée, et comme ça, on peut savoir qu'un neutrino est passé. Par rapport à d'autres expériences dont peut-être certains ont entendu parler, l'avantage de cette méthode, c'est qu'on peut reconstruire approximativement la direction d'arrivée du neutrino. Et donc, pour la première fois, on peut faire une image. Cette image est en fausse couleur, bien sûr, et ce n'est pas une image du Soleil en lumière visible, c'est une image du Soleil en neutrino. Donc c'est vraiment très spectaculaire, et ça confirme de manière... disons que l'image est centrée sur la position connue du Soleil, ça confirme de manière vraiment absolument non ambiguë qu'on détecte bien des neutrinos venus du Soleil. Alors, c'est formidable, on est encore très très loin de faire de la vraie astronomie neutrino, parce que l'image ici est très loin d'être résolue. La taille de l'image est d'à peu près 40 degrés de diamètre. Vous savez que le Soleil visible fait à peu près un demi-degré de diamètre apparent dans le ciel. Donc là, on est très très loin. Et en plus, là, normalement, on ne devrait pas voir quelque chose de la taille du Soleil, mais de la taille du cœur nucléaire du Soleil, qui est bien sûr beaucoup plus petit. Donc peut-être qu'un jour, ce sera faisable, mais on en est très très loin. Mais quand même, on a déjà une très très belle confirmation qu'en gros, on a compris comment fonctionnait le Soleil et les étoiles comme le Soleil. Et donc, on sait en particulier qu'à la fin de sa vie, quand il n'y aura plus d'hydrogène à brûler, le Soleil va passer brièvement par une phase géante rouge où brûlera l'hélium, mais ça durera moins longtemps. Et puis, essentiellement, à la fin, l'enveloppe externe de l'étoile va être expulsée pour faire ces objets qui émerveillent toujours les astronomes, que sont les nébuleuses planétaires. Et puis, le cœur va devenir un objet assez compact qu'on appelle une naine blanche. Une naine blanche, dans la catégorie des objets bizarres de l'astrophysique, c'est déjà pas mal. C'est un objet qui a la masse d'une étoile, comparable à, disons, dans le cas du Soleil, je ne sais pas, 60% de la masse actuelle du Soleil, mais dans la taille de la Terre. Donc la matière est extrêmement comprimée. On atteint des densités de l'ordre de la tonne au centimètre cube, très au-delà de ce qu'on sait reproduire au laboratoire sur Terre, par exemple. Donc, cette naine blanche, ensuite, va essentiellement refroidir indéfiniment et ne va plus tellement évoluer. Ça, c'est les étoiles normales, les étoiles les plus nombreuses dans la galaxie, les étoiles comme le Soleil. Dans le cas des étoiles plus massives, la vie de l'étoile est plus tumultueuse parce que, après chaque phase de fusion nucléaire, l'hydrogène, puis l'hélium, etc., l'étoile, le cœur de l'étoile réussit à se recontracter de manière à atteindre une nouvelle température qui permet un nouveau cycle de fusion. Et les cycles de fusion nucléaire s'enchaînent, jusqu'à produire dans le cœur du fer. Et le fer, c'est l'élément le plus stable, le plus lié de la classification périodique des éléments. On ne peut plus faire de réaction nucléaire avec le fer. Enfin, disons, on pourrait éventuellement faire, mais ça coûterait de l'énergie, ça n'en produirait pas. Donc là, ça s'arrête. Et là, à ce stade-là, le cœur de fer, il ressemble beaucoup à la naine blanche. Il a à peu près une masse comparable et une taille comparable, mais simplement pour des raisons de physique un peu compliquées, liées au fait que les électrons sont dégénérés et relativistes, ce cœur n'est pas stable et s'effondre sur lui-même et devient une étoile à neutrons. Alors là, dans le bestiaire des objets bizarres de l'astrophysique, on franchit un cap. L'étoile à neutrons, c'est toujours un objet qui a une masse comparable à la masse d'une étoile comme le Soleil, typiquement 1,5 fois la masse du Soleil, mais cette fois dans la taille de Paris, dans 10 km. Alors là, c'est inimaginable. C'est-à-dire que si vous prenez chaque centimètre cube d'une étoile à neutrons, en moyenne, vous avez cette fois 10 milliards de tonnes. C'est quelque chose qui n'existe pas sur Terre, mais quand on dit que ça n'existe pas, si vous voulez, si vous prenez, par exemple, du platine, qui est déjà... Vous êtes... Mais c'est sans comparaison, quoi. Et donc, là, ça illustre bien, au passage, un des aspects... Parmi tous les aspects qui font qu'on fait de l'astrophysique et qu'on s'y intéresse, eh bien, une des raisons, c'est que l'astrophysique nous offre des systèmes pour faire de la physique dans des conditions qu'on ne pourra jamais reproduire au laboratoire. Et donc, c'est le seul moyen de tester les lois de la physique dans ces régimes-là. Alors, c'est uniquement le cœur qui devient l'étoile à neutrons. Quand on calcule combien de temps il faut pour s'effondrer en étoile à neutrons, c'est de l'ordre de quelques millisecondes. Donc, le reste de l'étoile, pendant ces quelques millisecondes, ne réagit pas, ne sait pas qu'il s'est passé quelque chose. Puis quand même, au bout d'un moment, le reste de l'étoile s'aperçoit que le sol a disparu, et donc le reste de l'étoile commence à s'effondrer. Et puis, rencontre un mur. Et ce mur, c'est l'étoile à neutrons. C'est le mur le plus dur qui existe dans l'univers. Et donc, ça rebondit, et ça produit une explosion. Et ça, c'est ce qu'on appelle une supernova. Donc, les étoiles massives, elles, ne terminent pas en naines blanches et nébuleuses planétaires, mais en supernova. Un très bel exemple, c'est cette nébuleuse ici, qui n'est donc pas une nébuleuse planétaire, mais un reste de supernova, qui est bien sûr la nébuleuse du Crabe, l'objet numéro 1 dans le catalogue de Messier, et qui est une très belle confirmation de ce que je viens de vous dire, parce que quand on a découvert cette nébuleuse, eh bien, après coup, on est allé chercher dans les archives et on s'est aperçu que la supernova qui avait donné naissance à cette nébuleuse avait été observée en 1054 par en particulier des astronomes chinois. Et quand on lit les observations qu'ils ont faites, ils donnent une position très précise. On pointe, par exemple, ici le VLT dans cette direction et on trouve ça. C'est de l'astronomie à 10 siècles d'intervalle. Là aussi, quand on a confiance dans le genre humain quand on voit ce genre de choses. On se dit qu'il y a des choses possibles. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est donc le reste de l'étoile qui a explosé, qui a rebondi sur l'étoile à neutrons et qui a ensuite explosé et qui balaye à grande vitesse le milieu interstellaire, comme dans une explosion. Si vous faites une explosion dans l'atmosphère, vous avez aussi une onde de choc. Et bien ici, c'est ça qui se produit. Or, on connaît très bien la physique de l'onde de choc, en particulier parce qu'elle a été très étudiée dans les années 40 pour la physique des ondes de choc de bombes atomiques. C'est exactement la même physique. Et donc, à partir de la vitesse et de la taille actuelle du reste, on peut dater quand a eu lieu l'explosion. Et on trouve en gros bilan, c'est-à-dire exactement ce qui correspond au fait que la supernova a été observée en 1054. Donc là aussi, on peut dire que même s'il y a plein de détails à régler, on a également compris la vie et la mort des étoiles massives, comme celle qui a donné naissance à la supernova de 1054. Alors, ces explosions sont très puissantes. Quand on calcule quelle est l'énergie dégagée par l'effondrement puis l'explosion de l'étoile, toujours en termes de MC2, on a des efficacités bien supérieures à la fusion nucléaire. On a maintenant des efficacités qui sont au minimum de 10%, mais qui peuvent atteindre 40%. Donc là, on a affaire à une classe de phénomènes parmi les plus énergétiques dans l'univers. On verra que les sursauts gamma, c'est encore un stade au-dessus. Alors, ceci termine cette petite introduction sur les étoiles. Et maintenant, un mot rapide sur les spécificités de l'astronomie X et gamma. Donc, vous savez sans doute, ça a été encore évoqué, que le physicien aime, suivant les circonstances, décrire la lumière soit comme des particules, soit comme une onde, et qu'on peut relier l'énergie transportée par chaque particule, qu'on appelle un photon, avec la longueur d'onde ou la fréquence de l'onde, et intervient dans cette relation, d'une part la constante de Planck et d'autre part la vitesse de la lumière. Donc en astronomie gamma ou X, on utilise plutôt la notion de photon et la notion d'énergie transportée par chaque photon, parce que bon, grossièrement, à très haute énergie, ça a tendance à plus se comporter comme une particule que comme une onde. Et donc, pour prendre les ordres de grandeur, très grossièrement, la lumière auquel notre œil est sensible, l'énergie transportée par chaque photon, c'est ce qui fait la couleur. Un photon de lumière rouge transporte un petit peu moins d'énergie qu'un photon de lumière bleue. Et ces énergies, elles sont de l'ordre, dans une unité adaptée, de l'électron-volt, grossièrement. Eh bien, les rayons X, typiquement, c'est des photons qui transportent 1000 fois plus d'énergie, et les rayons gamma, ils transportent 1 million de fois plus d'énergie. Donc, on a affaire à des rayonnements très énergétiques. Alors ça, c'est assez intéressant, et ça conduit à un ciel observé qui n'a plus rien à voir avec le ciel auquel on est habitué, le ciel visible. Dans le ciel visible, alors bon, ça, c'est pas le ciel visible à Paris, mais c'est le ciel visible tout de même, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit essentiellement les étoiles, et donc en particulier les étoiles de notre galaxie, la Voie lactée. Alors, dans le ciel visible, même avec l'œil nu ou des instruments assez basiques, on voit déjà des objets assez lointains. On voit par exemple, le centre de la galaxie, qui est déjà de l'ordre de 8 kiloparsecs, 27 000 années-lumière. Donc, la lumière qu'on observe là au centre de cette galaxie a mis 27 000 ans pour nous parvenir. Et puis, on voit des objets même extragalactiques, comme par exemple la galaxie d'Andromède, qui est déjà à 2,5 millions d'années-lumière. Mais ça, vous allez voir, par rapport aux distances dont je vais vous parler pour les sursauts gamma, c'est de l'univers archi-local. C'est vraiment, on est sur place, quoi. On n'a encore rien fait. Vous allez voir que les ordres de grandeur n'ont plus rien à voir. Alors, dans le ciel, en X et en gamma, ce n'est pas du tout la même chose qu'on voit. Alors déjà, c'est une science beaucoup plus récente parce que l'atmosphère arrête les rayons X et les rayons gamma. Ce qui en soi est une bonne chose parce que c'est très nocif pour la vie et que s'il n'y a pas de vie sur Terre, il n'y a pas d'astrophysique, ce qui serait fort dommage. Mais ça veut donc dire qu'il a fallu apprendre à lancer des satellites dans l'espace pour pouvoir commencer cette astronomie-là. Donc c'est une astronomie assez récente et j'ai donc mis ici deux exemples. Vous avez tout d'abord un observatoire spatial européen, XMM Newton, qui travaille dans le domaine des rayons X. Et puis un observatoire américain, le Compton Gamma Ray Observatory, qui travaille dans le domaine des rayons gamma. Alors, en fait, précisément, le Compton Gamma Ray Observatory ne travaille plus, il a fonctionné dans la décennie des années 90, alors que XMM Newton est toujours en fonctionnement. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, justement, on va utiliser le fait que ces photons sont plus énergétiques et donc sont émis dans des conditions différentes et traversent plus facilement les milieux. Alors, à notre échelle, il y a une application bien connue des rayons X, c'est la radiographie médicale, avec ici une observation historique, la main de Mme Röntgen. Et le principe, c'est que les rayons X, justement, comme ils sont énergétiques, ils traversent les tissus mous, la peau, etc., mais pas les os, c'est ce qui permet de faire une radiographie médicale. Eh bien, en astronomie, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'il y a cette petite complication que l'astronome ne peut pas faire comme le médecin, aller poser sa plaque photo, revenir à sa source de rayons X, allumer sur le bouton, puis retourner chercher la plaque photo. Là, on est obligé d'avoir une source naturelle. Mais si on regarde notre nébuleuse du crabe, eh bien, ça a l'air de très bien fonctionner. Vous voyez, en haut, vous retrouvez l'image visible que je vous ai montrée. Et puis ensuite, je vous montre une image composite avec toujours le domaine visible dans la couleur rouge, et puis cette fois les rayons X en bleu. Et on voit apparaître une nébuleuse qu'on distinguait déjà dans le domaine visible, mais qu'on voit beaucoup mieux dans le domaine des rayons X. Et si on zoome, voilà ce qu'on voit. Et en fait, ça confirme encore le scénario que je vous annonçais. On ne voit pas directement l'étoile à neutrons, ça c'est impossible. Une étoile à neutrons, c'est un objet qui fait 10 km de diamètre à cette distance-là. On ne verra jamais une étoile à neutrons. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est le fait, tout à fait prédit par la théorie, que l'étoile à neutrons émet un vent de particules très énergétique. Et ce vent, ensuite, il vient cogner contre la coquille de la nébuleuse du crabe. Et ce qu'on voit donc, c'est l'endroit du choc. Et ça, c'est une physique qu'on va retrouver dans l'astrophysique des hautes énergies. Les sources de photons énergétiques, ce n'est pas des photons qui sont dans les conditions normales, c'est des photons qui sont produits par des particules qui ont été accélérées, comme dans un accélérateur de particules sur Terre, sauf qu'il faut trouver un accélérateur naturel. Et ici, on a un accélérateur naturel, le choc entre le vent de l'étoile à neutrons, le vent du pulsar, et la coquille de la supernova. Voilà. Alors voilà, par exemple, la carte du ciel vu dans le domaine gamma, vous voyez que ça ne ressemble plus du tout à la carte du ciel visible. On voit toujours notre galaxie, la Voie lactée, mais on ne voit pas des étoiles, on ne voit pas des sources ponctuelles, on voit une lumière diffuse. Cette lumière diffuse, c'est un petit peu compliqué, elle est due essentiellement au fait que dans la galaxie, il y a des particules très relativistes qu'on appelle le rayonnement cosmique, et que de temps en temps, une de ces particules vient cogner contre une particule au repos du milieu interstellaire, et la casse, et ça induit des réactions qui produisent des photons gamma. Et puis on voit quand même quelques sources ponctuelles, vous voyez quelques sources ponctuelles dans le disque galactique, et parmi ces sources ponctuelles, eh bien, on retrouve tout au bout ici la nébuleuse du crabe, qui comme c'est un bon accélérateur de particules, eh bien, elle émet des photons gamma. Et puis on voit aussi quelques sources en dehors du disque de la galaxie, de la Voie lactée, qui sont entourées avec des points, et dans ces sources, eh bien, on verra qu'on va retrouver les ingrédients qu'on retrouve aussi dans les sursauts gamma, c'est-à-dire, pour pouvoir voir une source extragalactique dans ces domaines de longueur d'onde, il faut des phénomènes particulièrement énergétiques, particulièrement puissants. Donc on pourrait avoir un sursaut gamma, sauf qu'un sursaut gamma n'est pas une source permanente, donc n'apparaît pas sur une carte comme celle-là. Ce qu'on voit ici, c'est essentiellement des blazars, qui sont des cas très extrêmes de noyaux actifs de galaxies, avec un jet relativiste qui pointe vers nous. Des ingrédients qu'on retrouvera aussi dans les sursauts gamma. Alors j'arrive aux sursauts gamma, et tout d'abord à leur découverte. Alors la découverte des sursauts gamma illustre bien les rapports troubles entre l'astronomie des hautes énergies et le domaine militaire. Essentiellement, vous avez tous entendu parler de la crise de Cuba. Tout le monde a très peur. Le téléphone rouge, Khrouchtchev, Kennedy, etc. Et une fois que la tension retombe un tout petit peu, dans les mois qui suivent, commencent pour la première fois des discussions diplomatiques en vue de faire baisser un peu la tension et pour symboliser ça, de commencer à faire des traités de désarmement. Et ça se traduit, si vous regardez les dates, c'est vraiment moins d'un an après, par un premier traité, le traité de Moscou en août 1963, qui est donc le premier traité interdisant les essais atomiques dans l'atmosphère. Alors si vous regardez au passage les signataires, il y a donc bien sûr les États-Unis et l'URSS, le Royaume-Uni. Il n'y a pas la France, puisque la France, à l'époque, fait des essais au Sahara et donc ne peut pas décemment signer un traité les interdisant. C'est très intéressant de lire le premier article de ce traité, pas tellement sur le plan astrophysique, mais sur le plan de qui sont les gens qui nous gouvernent, parce que vous voyez que quel était l'état d'esprit des superpuissances pendant la guerre froide. Eh bien, chaque puissance s'engage à faire respecter cette interdiction donc des tests atomiques dans toutes les régions sous leur juridiction ou contrôle. Et c'est quoi ces régions sous leur juridiction ou contrôle? Eh bien, c'est l'atmosphère au-delà de ses limites, incluant tout l'espace extérieur. Donc, en gros, c'est l'univers entier. D'accord? Ça fait un peu peur, mais voilà, c'est comme ça. Alors, naturellement, ça reste la guerre froide, donc on ne se fait pas confiance, et chaque groupe développe des méthodes de détection pour vérifier qu'en face, ils respectent le traité. Alors, je vais plutôt vous montrer le programme américain, parce que le programme russe est moins documenté, mais il existait aussi, et globalement, c'est la même chose. Alors, il y a plein de façons de détecter un essai dans l'atmosphère. Je vais détailler que la méthode qui nous intéresse ici, qui est de détecter le flash gamma, le flash de photon gamma associé à l'explosion, qui est une signature caractéristique d'une bombe atomique par rapport à des explosions plus traditionnelles. Alors, la difficulté de la détection des photons gamma, ça, je ne l'ai pas encore dit, c'est qu'on ne peut pas construire des instruments comme dans l'astronomie traditionnelle visible. On ne peut pas construire des miroirs et des lentilles. Essentiellement, ce qu'on sait faire, c'est des cristaux qui vous disent « je viens d'être traversé par un photon gamma ». Si vous êtes suffisamment habile, vous êtes capable de construire une électronique derrière le cristal qui va vous dire l'énergie du photon qui a traversé le cristal, qui va éventuellement vous dire aussi combien de photons par seconde traversent, ce genre de choses. Mais à aucun moment, cette électronique ne pourra vous dire d'où vient le photon. Et donc, pour faire des images, c'est assez difficile. Alors, dans cette époque assez primitive du point de vue de l'astronomie gamma, comment on fait pour quand même avoir une idée de la direction? Eh bien, on envoie plusieurs satellites, et si on détecte une émission, on compare le temps d'arrivée sur chaque satellite. Et comme la lumière va à une vitesse finie, eh bien, si la lumière elle vient du spot là-bas, et si j'ai un satellite ici, un autre là, eh bien, le flash émis par le spot va arriver d'abord ici, puis ensuite là. Et comme je connais la vitesse de la lumière, en fonction de le temps qu'il me faut pour passer de là à là, eh bien, je peux remonter la direction. Parce que bien sûr, si mes deux détecteurs sont comme ça, cette fois, le flash va arriver en même temps aux deux détecteurs parce que la distance à parcourir est la même. Alors que là, la distance n'est pas la même. Donc le délai ici est grand, le délai est court, c'est donc une information sur la distance. Alors voilà. Alors, l'histoire ne dit pas s'ils ont détecté des essais clandestins, entre guillemets, sans doute que oui, ne serait-ce que les essais chinois et les essais français de l'époque, mais l'histoire retiendra qu'ils ont détecté un nouveau phénomène naturel, les sursauts gamma. Et donc voilà l'enregistrement du premier événement. Alors ça, vous voyez tout de suite que l'astronomie gamma, c'est un peu plus austère que l'astronomie dans le visible, c'est moins des images, voilà. C'est essentiellement une courbe qui vous dit combien de photons on reçoit par seconde au cours du temps. Alors attardons-nous sur cette courbe un instant et regardons déjà l'axe des abscisses qui nous donne donc les temps d'arrivée. Et remarquons qu'on a affaire à un phénomène remarquablement court par rapport à l'astronomie à laquelle on est habitué. Je vous ai dit les vies d'étoiles, tout à l'heure j'ai parlé en dizaines de milliards d'années. Là, vous voyez que le phénomène dure au total moins de 10 secondes. Donc on a un phénomène extrêmement bref, pour ça qu'on appelle ça un sursaut. Après ça s'arrête. Vous remarquez que c'est très court, mais que c'est très variable. Même avec ce détecteur très primitif, on voit une structure temporelle. On voit qu'il y a au minimum deux sous-structures dans la courbe de lumière. Et puis surtout, on voit que c'est extrêmement intense. C'est-à-dire que là, on a affaire à un détecteur de toute première génération, et vous voyez que le flux au maximum est vraiment très intense. C'est-à-dire qu'en gros, dans un détecteur, il faut comparer au niveau de bruit. Et le niveau de bruit, c'est en gros les petites fluctuations qu'on a avant le signal ici. Et vous voyez que le contraste entre le signal et le niveau de bruit est gigantesque. Donc même avec ce détecteur très primitif, on détecte quelque chose d'extrêmement brillant. Alors, ils ont mis un certain temps avant d'annoncer cette découverte. Ils se sont sans doute demandé ce que c'était. Rappelons-nous que ce sont des gens de Los Alamos, partie militaire, qui font cette découverte. Mais bon, à Los Alamos, il y a aussi la partie astrophysique. un peu comme au CEA. Et donc, ils ont fini par se convaincre qu'ils avaient affaire à une source qui n'avait rien à voir avec les essais atomiques et qui était un nouveau phénomène naturel. Et donc, voilà le premier article annonçant la découverte du nouveau phénomène. Et toutes les caractéristiques essentielles sont là. C'est des photons gamma, donc dans le domaine du million d'électronvolts. C'est très intense, c'est très bref, c'est très variable. Et à ce stade, avec la localisation très primitive qu'ils ont, ils peuvent dire que ça ne vient pas de la Lune, ça ne vient pas du Soleil, et vraisemblablement, ça ne vient pas du système solaire. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait une découverte comme ça, qu'est-ce qu'on fait en astronomie? Eh bien, on ne va pas tout de suite se lancer à faire un modèle physique, etc. On va déjà essayer d'observer un peu mieux le phénomène pour le caractériser. Donc, rapidement, quelques mots sur les observations des sursauts gamma. Alors, voilà un autre sursaut gamma. Alors, cette fois, je combine deux choses que je vous ai déjà montrées. Vous avez d'une part la carte du ciel dans le domaine gamma. Alors, ce n'est pas le même instrument, c'est un peu plus ancien, donc la résolution est moins bonne. Mais vous retrouvez le disque galactique. Et puis, vous voyez une source apparaître dans le ciel, en dehors du disque galactique, et qui est extrêmement brillante. Vous voyez qu'au maximum, elle est tellement brillante qu'elle sature entièrement l'instrument. La carte devient toute blanche parce que l'instrument est saturé. Et puis, vous avez le nombre de coups de photons enregistrés en fonction du temps. Vous voyez que la durée est comparable au cas précédent, de l'ordre de la dizaine de secondes, et que, de nouveau, on confirme qu'on a affaire à un phénomène très variable et très, très brillant. On reçoit plus de 30 000 photons par seconde au maximum. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a fait pendant les années 70, 80, 90, 2000, 2010? Eh bien, les missions spatiales se sont succédées pour observer avec toujours plus de détails les sursauts gamma. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais je vous montre quelques-uns de ces satellites. Le gros observatoire américain que je vous ai déjà montré, là, le Compton Gamma Ray Observatory, avait à bord plein d'instruments, dont un qui était conçu que pour observer les sursauts gamma. Ensuite, vous avez, par exemple, un satellite qui s'appelle BepoSax, dont on va voir qu'il a joué un rôle fondamental dans la compréhension de ce que sont les sursauts gamma. Et puis plus bas, vous avez des satellites qui sont encore actuellement en vol. Le satellite SWIFT, qui est vraiment conçu lui aussi essentiellement pour observer les sursauts gamma. Et le satellite Fermi, qui est un observatoire plus généraliste, mais avec un instrument vraiment de nouveau pour observer les sursauts gamma. Alors voilà à quoi ça ressemble. De nouveau, la carte du ciel, donc cette fois la carte du ciel gamma moderne, vue par Fermi. Et puis voilà, cette fois, vous avez un point très brillant. Alors, vous voyez que c'est un peu plus long, ça dure 100 secondes, mais vous avez toute l'histoire des photons reçus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un instrument plus précis? Eh bien, je vous ai dit, les détecteurs, ils vous donnent une information sur l'énergie de chaque photon. Donc, on peut regarder si on reçoit plus de photons à basse énergie, à haute énergie, ce genre de choses. Et ça, pour le physicien, ça contient beaucoup d'informations. C'est ce qu'on appelle une information spectrale, c'est-à-dire non plus la distribution en temps d'arrivée des photons, mais la distribution en fonction de l'énergie des photons. Donc là, vous avez par exemple la courbe de lumière de ce sursaut à différentes énergies, depuis un domaine qui est plutôt des rayons gamma pas très énergétiques, jusqu'à un domaine qui est des rayons gamma très énergétiques, puisque cette fois, on atteint le milliard d'électronvolts et pas le million d'électronvolts, donc le GeV ici. C'est la première fois avec Fermi qu'on arrive à faire ce genre de détection. Alors, qu'est-ce qu'on obtient comme information? Par exemple, si on classe les sursauts en fonction de leur durée, déjà, on s'est aperçu d'une première chose, c'est que visiblement, il y a deux groupes. Vous voyez, le diagramme du haut, c'est le nombre de sursauts en fonction de la durée. Et clairement, ce n'est pas un gros paquet, c'est deux paquets. Un qui est... Alors, tous sont courts, hein, vous voyez, mais un qu'on va vraiment appeler les sursauts courts, avec une durée typique de l'ordre du dixième de seconde, et un qu'on va appeler les sursauts longs, même si c'est court à l'échelle astronomique, avec des durées typiques de l'ordre de la dizaine de seconde. Après, on peut faire un catalogue des courbes de lumière. Là, on est très embarrassé si on a en tête la modélisation physique à venir, parce qu'il n'y a jamais deux sursauts qui se ressemblent. C'est toujours très variable, mais néanmoins, il y a une certaine diversité. Vous avez quatre exemples ici, vous voyez, qui ne se ressemblent pas vraiment. Donc, les durées varient beaucoup. Chaque courbe de lumière est différente et varie beaucoup. Si on regarde maintenant le spectre, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, les photons reçus en fonction de leur énergie, eh bien là, y a moins de diversité. En gros, ça se ressemble à chaque fois. Et ça ressemble à quelque chose comme ça, c'est-à-dire vous avez le nombre, si vous regardez que la courbe du haut, vous avez le nombre de photons en fonction de l'énergie, en mégaélectronvolts, et vous voyez que globalement, on a plus de photons de basse énergie que de photons de haute énergie, mais que ce n'est pas régulier, on voit une cassure, d'accord? Alors, ça, on peut comparer avec ce qu'on connaît. Ce que les astronomes aiment bien comme spectre, c'est un spectre dit de corps noir. Vous avez ici le plus beau spectre de corps noir qui existe dans la nature, qui est le corps noir cosmologique. Le spectre de corps noir, vous voyez que c'est une forme très différente de ce que je vous ai montré. Et ça a un gros avantage pour l'astrophysicien qui veut déduire quelque chose de ses observations, c'est que la physique est très bien comprise du corps noir, c'est un rayonnement dit thermique, et il y a un seul paramètre physique caché derrière cette courbe, qui est la température. Donc si vous observez un objet qui rayonne comme un corps noir, vous pouvez immédiatement, sans même avoir compris quoi que ce soit de l'objet, vous pouvez déjà mesurer sa température, ce qui est une information. Voilà. Et donc c'est pour ça, par exemple, qu'on connaît assez facilement la température de toutes les étoiles. Là, on n'a pas du tout un corps noir, on a un spectre qui va donc être dit non thermique, puisqu'il n'est pas un corps noir, et qui typiquement, comme je vous l'avais annoncé, est donc un spectre qui n'est pas émis par des particules à l'équilibre, mais des particules qui ont été accélérées. Donc on sait déjà qu'on est en train d'observer en direct un accélérateur cosmique, donc l'équivalent du LHC, mais dans l'espace. Bien. Alors ça, à ce stade-là, on n'a pas encore compris grand-chose, mais on a fait une petite étape. Alors, quelle est la première question qu'on va se poser une fois qu'on a assemblé ce corpus d'observations ? Eh bien, on n'a aucune chance de comprendre ce qu'est un sursaut gamma si on n'est pas capable de dire à quelle distance ça se produit. Parce que, bien sûr, pour reproduire un nombre de photons par centimètre carré par seconde donné, eh bien, vous pouvez le reproduire en mettant une ampoule de 100 watts à 1 cm de votre main, ou le soleil, ou une explosion très violente beaucoup plus loin. Et bien évidemment, ce n'est pas la même physique qui va expliquer des phénomènes aussi différents. Donc tant qu'on n'a pas la distance, on ne peut pas remonter à la vraie énergie qui a été libérée, et on ne sait pas quelle physique on va devoir mettre en œuvre pour expliquer le phénomène. Donc, ce n'est pas propre sur ce gamma. Quand on découvre un nouveau phénomène en astronomie, la première question, c'est celle de la distance. Mais la question de la distance en astronomie, ce n'est jamais une question simple. Et on va voir que dans le cas des sursauts gamma, il a fallu à peu près 30 ans pour répondre à cette question. Alors, juste pour illustrer l'intérêt de la question, j'ai ici fait trois hypothèses très différentes pour la distance. J'ai dit, je prends un sursaut gamma typique, je sais combien de photons par seconde et par centimètre carré je reçois, et je fais l'hypothèse 1 qu'il est dans le système solaire, 2 qu'il est dans notre galaxie, et 3 qu'il est dans une galaxie très lointaine. Donc c'est trois distances très très différentes. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le parsec c'est en gros 3 années-lumière. Donc ici, 100 unités astronomiques, c'est les confins du système solaire, 10 kiloparsecs, c'est l'autre bout de la galaxie, et 1 gigaparsec, c'est une galaxie très très lointaine. Et donc j'ai calculé à chaque fois quelle puissance il fallait mettre intrinsèquement pour reproduire le flux observé. Je l'ai mis en watts, vous voyez que ça fait toujours beaucoup de watts, mais ça c'est l'astronomie, mais que c'est quand même des nombres très très différents. Si vous voulez, ce n'est pas la même physique qui va vous expliquer une source à 10 puissance 20 watts, ou une source à 10 puissance 44 watts. Alors j'ai mis des choses pour se rendre compte. Assez vite, on a éliminé l'hypothèse système solaire, donc concentrons-nous sur les deux dernières colonnes. Vous voyez que même dans la galaxie, ça fait des phénomènes brillants. Ça ferait un phénomène qui rayonne comme 10 millions de fois la puissance du Soleil. Donc c'est quand même quelque chose de très brillant. Mais bien sûr, si on fait l'hypothèse que le sursaut gamma se produit dans une galaxie lointaine, on a quelque chose de beaucoup plus extrême. Cette fois, c'est plutôt comme 10 millions de fois la galaxie et pas le Soleil. Donc, l'ordre de grandeur, hein, notre galaxie, c'est 200 milliards d'étoiles à peu près. Donc, c'est vraiment beaucoup. Voilà. Donc, il faut répondre à la question de la distance avant de pouvoir faire de la physique. Or, comme je vous l'ai dit, la distance, c'est difficile en astronomie gamma parce qu'on n'a pas de miroir, on n'a pas de lentille, donc on ne peut pas faire d'image. Alors, il y a plusieurs méthodes. Brièvement, une première méthode qui a été utilisée, c'est au lieu de mettre un seul détecteur, on en met plusieurs qui ne sont pas orientés pareil. Et donc, suivant où est la source, vous voyez que, par exemple, si la source elle est exactement à la verticale de ma main, là, au plafond, eh bien, ce détecteur-là va recevoir plein de photons, et celui-là ne va pas en recevoir du tout parce qu'il va arriver de manière rasante. Puis, si maintenant vous imaginez que la source se déplace comme ça alors que je ne change pas l'orientation, je vais plutôt me mettre comme ça, ou alors je vais déplacer comme ça pour changer, je vais prendre les spots là-bas. Mais vous voyez que quand la source est au zénith, c'est que celui-là, et puis quand elle va être vers là, ça va continuer à être celui-là plus, mais celui-là va commencer un petit peu, et puis quand ça va être à l'horizontale, c'est celui-là qui va tout prendre et celui-là rien. Donc la comparaison entre les deux détecteurs me donne une information sur la direction. Alors ce n'est pas précis du tout, mais faute de mieux, c'est ce qu'on faisait en gros jusque dans les années 2000. Autre possibilité, plus coûteuse, c'est on prend cette fois plein de satellites, au lieu d'en avoir un seul, et comme je vous l'ai dit, on compare les temps d'arrivée. Le problème, c'est que comme la lumière, ça va vraiment très très vite, on ne peut pas faire ça à l'échelle d'un seul satellite, parce que sur quelques mètres, les temps d'arrivée sont trop semblables, on n'arrive pas à les différencier. Donc on a besoin de distances typiquement de l'ordre de la distance Terre-Soleil, de l'unité astronomique. Donc par exemple, on peut prendre un satellite en orbite autour de la Terre, et puis la sonde Ulysse qui est en orbite autour du Soleil, et sur lequel on met aussi un détecteur gamma. Et là, si on compare les temps d'arrivée, on peut faire des choses. Alors là, c'est beaucoup plus précis que la méthode précédente, mais ça met beaucoup de temps à obtenir, parce qu'en gros, il faut collecter les données d'un premier satellite, collecter les données d'un deuxième satellite, vérifier que les horloges sont bien synchronisées entre les deux satellites, puisqu'on veut mesurer des délais. Donc si les horloges ne sont pas synchronisées, on fait un remake de l'expérience Opéra. Et donc, il faut faire tout ça, ça prend du temps, et typiquement, ça prend de l'ordre de 1, 2, voire 3, 4 semaines. D'accord ? Et puis une fois qu'on a cette position super précise, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va voir à cette position-là, avec tous les télescopes qu'on peut imaginer, des radiotélescopes, des télescopes dans le visible, hein, et malheureusement, 3-4 semaines après, on ne trouvait rien. Et on sait aujourd'hui que la stratégie était la bonne, mais qu'il fallait aller beaucoup plus vite. Alors, comment on fait aujourd'hui pour réussir à avoir des positions qui soient à la fois précises et obtenues rapidement ? Eh bien, la méthode est assez subtile, et c'est pour ça que je vais vous l'expliquer, parce que je la trouve intéressante. C'est un bon exemple de « il faut savoir faire des compromis dans l'existence ». On va accepter de perdre une partie des photons pour pouvoir savoir d'où ils viennent. Donc, au lieu de mettre directement le détecteur devant le ciel et qu'il enregistre les photons, on va mettre devant le détecteur ce qu'on appelle un masque. Et ce masque, il est fait de pavés transparents et de pavés opaques. Opaques pour les photons gamma. Ce qui est d'ailleurs un problème, parce que opaque pour les photons gamma, c'est du plomb, du tungstène, des choses comme ça. Ça coûte cher pour envoyer dans l'espace. C'est lourd. Donc voilà, et donc l'idée c'est que maintenant le détecteur il ne détecte pas directement le ciel, mais il détecte l'ombre du masque éclairé par le ciel. Et vous savez tous qu'à partir de la position d'une ombre, on peut remonter la direction du soleil. Et bien ici, à partir de la position de l'ombre du masque, on peut remonter à la source de photons gamma. Et avec ça, on peut avoir en temps réel, parce que le calcul est fait à bord par l'ordinateur de bord, la position avec une bonne précision. Et ça, ça marche en gros depuis le début des années 2000. Ça a été la révolution de l'astronomie gamma. Alors vous avez un exemple de masque ici pour le satellite Swift dont je vous ai parlé. Vous voyez que c'est un gros truc, et puis donc là, il y a quelqu'un qui est en train de poser soigneusement tous les pavés opaques au bon endroit, parce que bien sûr, ce que je vous ai dit, ça marche très très bien s'il y a une seule source, mais s'il y a plusieurs sources dans le ciel, ce qui est souvent le cas, eh bien, suivant la façon dont vous avez construit votre masque, l'ombre peut être plus ou moins ambiguë, et on ne va pas très bien savoir combien il y avait de sources pour l'éclairer. Donc il y a des mathématiques intéressantes pour savoir comment construire au mieux votre masque pour qu'à partir du nombre donné, la reconstruction du nombre de sources dans le ciel soit la moins ambiguë possible. Donc là, il y a des mathématiques très évoluées qui se cachent derrière le motif qui semble aléatoire de masque sur cette image. Alors voilà, alors en gros, pour résumer, voilà ce que ça donne avec la première technique dont je vous ai parlé, là, les détecteurs comme ça. On a l'ordre du degré en précision, donc c'est très, très moche. Hein. Je vous rappelle, le Soleil fait un demi-degré dans le ciel. En comparant les temps d'arrivée, c'est beaucoup mieux. C'est la minute d'arc, mais il faut longtemps. Et puis, avec la méthode du masque codé que je vous ai indiqué, on a aussi la minute d'arc, mais en temps réel. Alors, en attendant d'avoir ça, comment on peut faire ? Eh bien, on a une information indirecte en regardant la carte du ciel des sursauts gamma. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder juste un sursaut gamma, parce qu'on ne sait pas le localiser précisément, mais on sait tous les localiser à peu près, et donc on peut faire une carte du ciel. Alors voilà à quoi ça peut ressembler, sauf qu'ici, ce n'est pas les sursauts gamma, encore, je vous le montrerai à la fin, c'est les étoiles proches. Donc si on regarde la carte du ciel des étoiles proches, ben on constate qu'il y en a dans toutes les directions. Si vous ne l'avez jamais constaté, je vous invite un soir à sortir la nuit et à regarder le ciel. Voilà, alors ça, en fait, on sait que, maintenant on sait l'expliquer, la galaxie a la forme d'un disque, et les étoiles proches, on est dans le disque, et les étoiles proches, c'est celles qui sont à une distance inférieure à l'épaisseur du disque, donc on en voit dans toutes les directions, parce qu'on est vraiment dans le disque. Puis après, au-delà de ça, on ne les voit que dans la direction du disque, c'est pour ça qu'on voit la Voie lactée se décider dans le ciel. Alors justement, si on regarde la carte du ciel d'une autre catégorie d'objets, qui sont les nébuleuses planétaires, dont je vous ai dit que c'était les restes d'étoiles comme le Soleil, et donc dans notre galaxie, on s'attend à ce que les nébuleuses planétaires soit justement dans le disque de la galaxie, là où sont les étoiles, et bien voilà ce qu'on obtient. Et effectivement, on obtient une distribution très différente de la précédente, où on voit se dessiner la Voie lactée. Donc ici, on est dans des coordonnées où l'équateur correspond à la Voie lactée et le centre correspond à la direction du centre de la Voie lactée. Donc ça marche très bien. Après, on peut faire la carte du ciel d'autres objets qu'on appelle les amas globulaires, qui sont des petits groupes d'étoiles âgées et qui sont, eux, dans un halo à peu près sphérique autour de la galaxie. Alors on pourrait dire, comme c'est dans un halo à peu près sphérique, on devrait en voir autant dans toutes les directions. Mais alors là, cette fois, l'observation que je vous invite à faire, c'est d'aller vous promener en forêt. Et si vous promenez en forêt, si vous êtes au centre de la forêt, vous voyez effectivement des arbres dans toutes les directions. Mais plus vous vous rapprochez de la lisière, plus vous allez voir une accumulation d'arbres dans une direction et un manque d'arbres dans l'autre direction. Et donc, l'isotropie de votre observation en termes de comptage d'arbres vous indique à quel point vous êtes profondément perdu dans la forêt ou très près d'en sortir. Eh bien, c'est exactement ce qu'on voit ici. Si le Soleil et le système solaire étaient au centre de la galaxie, on verrait à peu près autant d'amas globulaires dans toutes les directions, mais le Soleil est plutôt en banlieue, à 8 kiloparsecs du centre, et donc on voit une accumulation d'amas globulaires dans la direction du centre, puisque c'est là qu'on intersecte la plus grande épaisseur de la galaxie. C'est comme ça que Chapelet, pour la première fois, a pu estimer la distance du Soleil dans la galaxie bien avant qu'on puisse faire des mesures beaucoup plus précises. Alors après, on peut regarder, on peut sortir de la galaxie, regarder la carte du ciel des galaxies proches. Et là, on ne retrouve pas, bien sûr, la Voie lactée. On en voit dans plein de directions, mais on n'en voit pas dans toutes les directions. Alors, ce n'est pas le même effet que pour les amas globulaires. Là, ce qu'on voit se dessiner, c'est ce qu'on appelle les grandes structures, le fait que dans l'univers, les galaxies se répartissent le long de filaments, et puis ensuite dans des amas, des super-amas, etc. Donc, notre galaxie appartient à un groupe qu'on appelle le groupe local, qui lui-même appartient à l'amas de la Vierge, etc. C'est ça qu'on voit. Et donc, vous voyez que toutes ces cartes, elles sont toutes très différentes, et elles correspondent à des objets à des distances différentes. Donc, il y a bien l'idée qu'en faisant une carte du ciel, on va apprendre quelque chose sur la distance. Alors, regardons, pour finir, la carte d'objets très lointains qui sont les radiogalaxies, qui sont des galaxies très puissantes qu'on peut voir très très loin. Alors là, il y a juste une petite difficulté, c'est qu'on a l'impression qu'on n'en voit pas du tout sur le long d'une bande le long de l'équateur, mais là, c'est parce que l'observation n'est pas possible à travers le disque de la galaxie. Donc, c'est un artefact. On n'a aucune raison de penser qu'il n'y en a pas autant dans cette direction-là. Et donc là, on retrouve à peu près la même carte que pour les étoiles proches. Pour la première fois, dans tout ce que je vous ai montré, on a de nouveau une distribution qui semble isotrope, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de direction privilégiée. Et donc maintenant, regardons le cas qui nous intéresse, les sursauts gamma. Et les sursauts gamma, c'est aussi isotrope. Donc, de deux choses, une, soit c'est très proche, mais le très proche, c'est facile à éliminer, parce que si c'est très proche, eh bien, normalement, on voit bouger. Les étoiles proches, on les voit toutes bouger. Donc, l'hypothèse la plus raisonnable, à ce stade, c'est plutôt penser que c'est très loin, comme les radiogalaxies. Alors, est-ce qu'on peut confirmer ça? Eh bien, avant, il faut quand même que j'évoque le fait que ça a beaucoup fait discuter les astrophysiciens dans les années 90. Et on peut faire un écho avec un autre débat dans les années 20. Dans les années 20, les gens s'interrogeaient beaucoup sur la nébuleuse d'Andromède et les nébuleuses spirales du même style. Et la grande question qui se posait, c'est est-ce que l'univers, c'est une seule grande galaxie, la nôtre, et ces nébuleuses, c'est des petits nuages de gaz dans la galaxie? Et dans ce cas-là, on n'emploie jamais le mot galaxie au pluriel. Ou est-ce qu'en fait, ces nébuleuses, c'est d'autres galaxies qui ressemblent à la nôtre, mais qui sont beaucoup plus loin, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à distinguer les étoiles. Et donc, il y a eu un débat fameux entre Chapelet et Curtis pour débattre de ces deux hypothèses, et c'est l'hypothèse la plus extrême qui était la bonne. La nébuleuse Andromède est une autre galaxie, et c'est Hubble qui a tranché en utilisant la méthode de Madame Leavitt, utilisant les céphéides, pour mesurer pour la première fois la distance d'Andromède. Alors, dans les années 90, même débat pour les sursauts gamma. Est-ce que les sursauts gamma sont dans notre galaxie? Et dans ce cas-là, pour réussir à faire une distribution qui apparaît comme à peu près isotrope, il faut dire qu'ils sont dans une espèce de gros halo sphérique autour de la galaxie, suffisamment gros pour que le Soleil soit presque au centre, malgré le petit décalage. Et puis, autre hypothèse, les sursauts gamma ont lieu dans des galaxies très très lointaines. Et donc, Paschinski, qui est un des grands astronomes du 20e siècle et début du 21e, était partisan de cette hypothèse la plus extrême et l'a donc défendue face à Dunlamb, qui était plutôt l'hypothèse la moins extrême dans la galaxie, qui était majoritaire à l'époque dans la communauté, et puis Sir Martin Rees, qui est aussi un des grands astrophysiciens, lui encore en vie, était l'arbitre de ce débat. Et donc, c'est bien sûr, une fois de plus, Paschinski, et donc l'hypothèse la plus extrême, qui était la bonne. Alors maintenant, accélérons, on a tous les éléments. Eh bien, ce qui a réussi à trancher, c'est quand, pour la première fois, on a envoyé un satellite qui avait à son bord à la fois un télescope gamma, qui donc détectait le sursaut gamma, et un télescope X qui regardait la même région du ciel en même temps et qui était capable de localiser avec une meilleure précision. Alors là aussi avec un délai, mais ce qu'a découvert ce satellite, qui est donc BepoSax, c'est que le sursaut gamma était effectivement suivi d'une lumière apparaissant cette fois en rayons X, mais qui décroît très très vite avec le temps. Vous avez, ici c'est dans le visible, mais dans le rayon X, ça serait la même décroissance. Vous avez le logarithme du flux en fonction du logarithme du temps, et vous voyez que ça décroît très très vite. Mais donc, comme les deux instruments étaient à bord du même satellite, l'observation était quand même possible. Ensuite, le satellite était capable de donner ses données au sol une fois par orbite. Donc, en un temps de l'ordre de quelques heures, on obtenait les données au sol. Il fallait faire le traitement au sol pour retrouver la position. Et c'était ensuite diffusé dans les observatoires. Et tous les télescopes qui s'intéressaient au sursaut gamma, il y en avait beaucoup à l'époque, pouvaient aller chercher dans cette direction, voir s'ils trouvaient quelque chose. Et c'était la première fois qu'on avait donc des positions précises en quelques heures, au lieu de les avoir en quelques semaines. Et donc ça a marché pour la première fois en 1997, avec la découverte cette fois d'une lumière qui suit le sursaut gamma dans le domaine visible. Alors cette fois, vous reconnaissez une image dans le domaine visible avec... Voilà, c'est vraiment une, c'est pas une plaque photo, c'est sur un CCD, mais c'est, voilà. Et vous voyez qu'il y a au centre de l'image, à la position du sursaut gamma, un objet qui est marqué OT, pour Optical Transient, donc un phénomène transitoire dans l'optique, qui a été immédiatement identifié comme n'étant pas présent dans les catalogues, donc, a priori, une source nouvelle. Et donc, ensuite, les télescopes l'ont suivi au cours du temps, et ils sont aperçus que la lumière était de plus en plus faible et que ça finissait par s'éteindre. Et donc là, vous avez la même région du ciel plusieurs jours après, et vous voyez que ça s'est éteint. Et là, cette fois, c'est la lumière visible en fonction du temps. Vous voyez qu'effectivement, ça s'éteint et assez rapidement. En gros, en 10 jours, il n'y a plus rien parce que les derniers points, c'est le télescope Hubble. Mais le télescope Hubble, c'est quand même, en termes de sensibilité, c'est le nec plus ultra. Donc, il faut mettre le paquet pour encore détecter. Alors, la première fois, c'était en février 1997, les gens ont été un peu pris par surprise. Donc, ils n'ont pas eu le temps de faire un spectre de la lumière. Mais la seconde fois, en mai 1997, ils ont fait un spectre. Et ils ont constaté que la lumière de ce sursaut gamma était très décalée vers le rouge. En particulier, vous avez ici un doublé du magnésium ionisé une fois, qui est très décalé vers le rouge. Les photons sont plus rouges que ce qu'ils devraient. Et ça, depuis Hubble, on sait que c'est une signature non ambiguë du fait que la source est très lointaine et que donc sa lumière a été affectée par l'expansion à grande échelle de l'univers et a été décalée vers le rouge. Donc ça, c'est la grande découverte de Hubble. Enfin, une des grandes découvertes de Hubble, parce que la mesure de la distance d'Andromède, c'était pas mal aussi. Hein. Et vous avez donc ici un diagramme qui montre la vitesse, mais donc, en fait, ce qu'il mesure, ce n'est pas une vitesse, c'est un décalage vers le rouge, en fonction de la distance. Et vous voyez que plus on est loin, plus on est décalé vers le rouge. Vous avez le même diagramme de Hubble, mais cette fois obtenu par Hubble, le satellite, le télescope spatial, avec une gamme de distance beaucoup plus grande, et qui confirme que le décalage vers le rouge est d'autant plus grand que la distance est grande. Et donc, dans le cas de ce sursaut, si on calcule à quelle distance il a été émis, ben, ça ne rime plus à grand-chose de compter en parsecs. Il faudrait plus compter en milliards de parsecs. Et en fait, pour vous donner quelque chose qui est plus facile à imaginer, l'univers, en gros, aujourd'hui, est âgé de à peu près entre 13 et 14 milliards d'années, et la lumière de ce sursaut gamma a voyagé sur à peu près la moitié de cet âge pour nous parvenir. Donc, on a affaire à une source extrêmement lointaine. Alors, une fois que cette lumière visible s'est éteinte, on peut continuer à observer, et au miracle, on voit apparaître une galaxie très très faible, qu'on ne connaissait pas encore, et qui est a priori la galaxie où a eu lieu le sursaut gamma. On fait un spectre de cette galaxie, et au miracle, on retrouve que sa lumière est décalée vers le rouge, exactement de la même façon qu'auparavant, ce qui confirme parfaitement l'association et la mesure de distance. Alors, voilà à quoi ça ressemble la galaxie d'un sursaut gamma. Vous voyez que c'est la petite tache floue au milieu, là. C'est une image Hubble. Donc il faut être spécialiste des galaxies, ce que je ne suis pas, pour croire que c'est vraiment une galaxie. Parce que moi, pour moi, je suis sans doute comme vous, une galaxie, c'est plutôt ça. Mais ça, c'est une galaxie très très proche. Et ça, c'est une galaxie à un milliard d'années-lumière. Voilà. Alors, à partir de là, une fois qu'on savait que c'était ça qu'il faut faire, eh bien, on a amélioré la technique. Et par exemple, le satellite SWIFT, c'est un satellite qui reproduit ça entièrement automatiquement à bord. Donc maintenant, on a toutes les informations en temps réel, observation du sursaut gamma, puis en X, puis dans le visible, et qui a donc permis la mesure du décalage vers le rouge et donc de la distance d'un très grand nombre de sursauts. Aujourd'hui, on en est maintenant à plus de 200 sursauts gamma dont on a pu mesurer la distance, et donc il n'y a plus aucune ambiguïté, on sait que les sursauts gamma ont lieu dans des galaxies très lointaines. À partir de là, on peut donc en déduire que l'énergie émise intrinsèquement, c'est le scénario le plus extrême, c'est une énergie colossale, et pour donner un exemple, c'est 100 fois plus d'énergie que dans une supernova. Donc on a affaire à des explosions, a priori, les plus extrêmes connues actuellement dans l'univers. Alors, de manière intéressante, les gens avaient quand même commencé à faire des modèles. Vous avez ici la liste des 90 modèles proposé au début des années 90 pour expliquer les sursauts gamma. Et une fois qu'on sait qu'ils sont cosmologiques, on peut en éliminer 95% parce qu'ils n'étaient pas aussi loin. Personne ne pouvait imaginer que c'était aussi spectaculaire. Alors juste pour vous montrer que les sursauts gamma, c'est vraiment des monstres, voilà un exemple d'un sursaut gamma, c'est pour faire rêver ceux qui parmi vous sont peut-être astronomes amateurs, d'un sursaut gamma qui aurait permis à chacun d'entre nous de voir à l'œil nu un objet à distance cosmologique, à plus d'un milliard d'années-lumière. Parce que ce sursaut gamma, il est à un décalage vers le rouge de 0,9, donc ça correspond à une distance comparable au précédent que je vous ai montré. Et là, par chance, il y avait un télescope visible qui observait exactement dans la bonne direction au bon moment. Donc pour la première fois, on a détecté le signal visible non pas après le sursaut, cette lumière qui décroît au cours du temps, qu'on appelle la rémanence, mais pendant le sursaut. Et donc vous avez ici en noir le sursaut gamma, dans le domaine gamma, et en rouge, sa lumière visible au même moment, mais dans le domaine visible. Alors, elle est donnée en magnitude, et vous voyez qu'elle pique à la magnitude 5,3, et pour ceux à qui ça dit quelque chose, notre œil nu est sensible, en gros, à des sources jusqu'à la magnitude 6. Donc, 5,3, c'est visible à l'œil nu. Et donc, on aurait pu voir à l'œil nu un objet situé à plus d'un milliard d'années-lumière. La seule difficulté, c'est qu'il fallait savoir exactement où regarder et quand, parce que, bien sûr, ça dure, en gros, 40 secondes. Donc, en pratique, personne ne l'a vu, bien sûr. Mais c'est quand même très spectaculaire et ça illustre d'une autre façon à quel point on a affaire ici à des phénomènes très énergétiques. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je vais peut-être dire maintenant quelques mots sur les modèles.
10 minutes.
Alors, très bien. Je vais dire un mot sur les modèles. Une fois qu'on en est là, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'expliquer la physique de ces phénomènes? Eh bien, on recense les observations qui nous paraissent les plus pertinentes. Et dans le cas des sursauts gamma, on peut résumer en disant qu'on sait maintenant, grâce à la distance, que c'est une énergie phénoménale qui est dégagée et en un temps très court. Donc, il faut faire appel à des phénomènes cataclysmiques parmi les plus énergétiques dans l'univers. Alors ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est, quand je dis très court, c'est vraiment très court. C'est des durées, vous avez vu, qui se comptent en secondes ou en millisecondes. Et ça nous donne une idée de la taille de la source. Parce qu'en gros, en physique, il y a un argument dit de causalité qui vous dit qu'une source qui varie sur une échelle de temps delta t ne peut pas être plus grosse que la vitesse de la lumière fois delta t. Et donc, ça vous dit que la source du sursaut gamma, elle est assez petite. Et donc ça, à l'arrivée, il n'y a pas 50 possibilités. On a affaire ici à un phénomène cataclysmique qui produit une source très petite, très compacte. Donc en gros, peut-être une étoile à neutrons et beaucoup plus probablement un trou noir qui est l'objet le plus compact qui existe dans l'univers. Alors, on a donc affaire à un phénomène cataclysmique qui produit un trou noir. Et ensuite, si on calcule, on fait l'hypothèse que par un mécanisme qui reste encore inconnu à ce stade, les photons gamma sont produits immédiatement au voisinage de cette source nouvellement formée. Au passage, hein, quand même, c'est rigolo. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous voyez un sursaut gamma, vous venez de voir un trou noir naître dans l'univers. D'accord ? C'est le cri de naissance des trous noirs dans l'univers. Alors, est-ce que les photons gamma peuvent être émis directement au voisinage du trou noir? Eh bien, si on calcule ça, on regarde, on se dit, on sait combien on a d'énergie sous forme de photons gamma, on sait quelle est la taille de la région avec l'argument de causalité, on peut donc en déduire combien il y a de photons gamma par centimètre cube dans cette source, en faisant cette hypothèse. Or, les photons gamma, ils ont une propriété, comme ils sont très énergétiques, ils peuvent faire quelque chose que les autres photons ne peuvent pas faire. Vous pouvez avoir deux photons gamma qui se combinent, et qui vont dire s'annihiler, pour produire une paire positron-électron. Il y a un seuil, mais ils sont suffisamment énergétiques pour que ce soit possible. Et avec la densité qu'on calcule dans cette hypothèse-là, le seuil est très largement atteint, et on devrait avoir tous les photons qui disparaissent parce qu'ils s'annihilent. Et donc, on ne devrait pas avoir de photons gamma. Et donc, il y a une sorte de paradoxe. On appelle ça le problème de la compacité. Mais fort heureusement, ce problème était déjà connu dans d'autres sources, et Sir Martin Rees, que je vous ai montré tout à l'heure, l'a résolu depuis les années 70. La solution, c'est de faire l'hypothèse que les photons ne sont pas... Je l'appelle Sir Martin Rees parce que c'est rare les astronomes qui ont été anoblis par la reine. La solution, c'est de dire que les photons gamma ne sont pas produits directement au voisinage de la source qui vient de se former, mais qu'en fait, cette source, dans un premier temps, va faire une éjection de matière à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, et beaucoup plus tard, cette matière va restituer une partie de cette énergie sous forme de photons. Alors, pourquoi ça résout le problème? Alors là, il faut faire un tout petit peu de relativité. Si vous êtes comme moi non-relativiste et que vous vous promenez et que vous émettez de la lumière dans toutes les directions, ça c'est mon cas, eh bien vous me voyez sous n'importe quel angle. Parce que, en gros, j'émets vraiment de la lumière dans toutes les directions. Si je continue à rayonner dans toutes les directions, mais que par quelque chose que je ne vais pas pouvoir vous montrer, je me mets tout à coup à avancer à vitesse proche de la vitesse de la lumière, eh bien, ce que nous dit la relativité, c'est que dans ce cas-là, je vais focaliser mes photons vers l'avant. Et donc, si je vais dans cette direction, tout à coup, vous ne me verrez plus, parce que tous mes photons iront vers là. Alors, ça veut donc dire que si vous observez une source en mouvement relativiste, vous ne voyez pas toute la source, mais uniquement la toute petite région de la source qui pointe vers vous. Et donc, l'argument de causalité, il ne s'applique pas à la totalité de la source, mais uniquement à la taille de cette petite région. La vraie source, elle peut être beaucoup plus grande. Si la vraie source est beaucoup plus grande, ça veut donc dire que la densité de photons va être plus petite. Vous mettez le même nombre de photons dans un volume beaucoup plus grand, la densité est plus petite. Vous aurez moins d'annihilation, et donc les photons gamma peuvent survivre. Et donc, on peut calculer à quel point ça doit être relativiste pour pouvoir observer le photon gamma. Et on trouve, pour mesurer à quel point on est relativiste, on utilise une grandeur qu'on appelle le facteur de Lorentz. On trouve des facteurs de Lorentz de l'ordre de 100, ce qui est phénoménal. Ça veut dire que la vitesse en unité de la vitesse de la lumière, c'est 0,99995c. Donc on est très 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 près de la vitesse de la lumière. Alors, une fois qu'on a compris ça, eh bien, on peut essayer de faire un scénario théorique. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vous montre pas, on a fait une mesure très précise du facteur de Lorentz à l'IAP dans un cas, mais je saute ça et j'arrive au scénario théorique. Alors l'idée, c'est ce que je vous ai dit, un phénomène cataclysmique produit un trou noir de masse stellaire. Alors là, en gros, il y a deux familles d'événements connus qui peuvent faire ça. Soit l'effondrement d'une étoile très massive, suffisamment massive pour que le cœur soit trop massif pour produire une étoile à neutrons, et dans ce cas-là, s'effondre en trou noir. Ou alors, un système binaire de deux étoiles à neutrons, ce qui est déjà en soi un système extrêmement exotique. Au passage, vous voyez que c'est a priori des phénomènes rares, parce que pour produire un système de deux étoiles à neutrons, il faut que le système binaire ait résisté à deux supernovae et deux explosions. Voilà. Mais bon, il y en a quelques-uns, on en observe dans la galaxie. Et donc la relativité générale nous dit que dans ce cas-là, les deux étoiles à neutrons se rapprochent progressivement parce que le système perd de l'énergie du moment cinétique par émission d'ondes gravitationnelles. Et au bout d'un moment, les deux étoiles à neutrons fusionnent, et donc ça produit un objet qui est trop massif pour être une nouvelle étoile à neutrons, et donc il va être un trou noir. Alors dans ces deux scénarios, on forme un trou noir, mais toute la masse ne tombe pas dans le trou noir, à cause en particulier de la force centrifuge, et donc se forme un disque autour du trou noir. Ça, c'est une configuration très standard en astrophysique, on a ça dans plein de sources. Et on sait, parce qu'on l'observe dans d'autres phénomènes, je vous montrerai un exemple, que ces sources sont effectivement capables, dans certaines conditions, de produire des éjections relativistes, ce dont on a besoin. Donc ici, le schéma symbolise le fait qu'on a une éjection relativiste. Alors voilà, donc la source est là. Alors, ce n'est pas une source tranquille, hein, c'est un trou noir qui vient de se former dans un des événements les plus cataclysmiques qui existent dans l'univers. Et puis, hop, il éjecte de la matière dans cette direction. Si vous éjectez de la matière au départ, elle est donc, tant qu'elle est très très proche, elle est très très dense, elle est opaque à son propre rayonnement. Donc, rien ne sort. Donc, vous, observateur, vous ne voyez rien. Et puis, ça s'éloigne, en s'éloignant, ça se dilue, et arrive un moment où ça va devenir transparent. À partir de là, on peut commencer à recevoir des photons. Donc c'est ce qu'on appelle la photosphère, par analogie avec la photosphère du Soleil. Une fois qu'on est au-delà de la photosphère, il faut essayer d'identifier, c'est ça le rôle de l'astrophysicien qui va faire un modèle, c'est-à-dire ce que je fais avec mes collègues ici à l'IAP, c'est essayer de comprendre par quel mécanisme une partie de l'énergie de cet éjecta, qui est essentiellement de l'énergie cinétique, hein, c'est un mouvement relativiste, comment on peut la convertir en rayonnement. Alors l'idée, c'est que si vous émettez, par exemple, un premier morceau de matière qui va très très vite, très proche de la vitesse de la lumière, puis un deuxième qui va aussi très proche de la vitesse de la lumière, mais un tout petit peu plus vite. Comme c'est des toutes petites différences, en gros, ça va tout à la même vitesse, bon. Mais celui-là, il va quand même très légèrement plus vite. Donc, il se rapproche, et à très très grande distance, ils vont finir par se rencontrer, ça va faire une collision. Alors là, je l'ai fait avec les mains, mais dans la réalité, en fait, l'éjection est permanente, et donc essentiellement, ce qui va se produire, c'est ce qu'on appelle un raidissement du gradient de vitesse, parce que ici, ça va trop vite par rapport à là, puis il va arriver un moment où le gradient devient raide, et dans ce cas-là, en mécanique fluide, il va se produire ce qu'on appelle une onde de choc. Il va y avoir une onde de choc qui va se former, exactement comme quand vous avez un tsunami. Voilà. Et donc, les ondes de choc, ça, les astrophysiciens aiment bien, les astrophysiciens des hautes énergies, parce que justement, on sait que les ondes de choc, c'est des accélérateurs de particules naturelles. Donc, si on fait une onde de choc dans l'éjecta, on va accélérer des particules, on va aussi amplifier le champ magnétique. Les particules vont donc rayonner dans ce champ magnétique par rayonnement synchrotron, par diffusion Compton inverse, enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais on connaît les processus radiatifs dans ces conditions-là, et vont produire des photons gamma. Et donc, ce que je viens de vous décrire, c'est le mécanisme pour produire le sursaut lui-même. Et quand on calcule, en fait, le phénomène est beaucoup plus long dans le référentiel de l'éjecta, mais à cause du fait que toutes les vitesses sont proches de la vitesse de lumière, pour l'observateur, tout apparaît entassé et donc le phénomène apparaît comme très bref, typiquement en quelques secondes, comme je vous l'ai montré. Alors, dans la première partie de cette histoire, l'éjecta, il est tellement énergétique qu'il ne sent pas qu'il n'est pas dans le vide, parce qu'entre les étoiles, ce n'est pas du vide, mais c'est quand même ce qui s'en rapproche le plus. Les densités typiques dans ce qu'on appelle le milieu interstellaire, c'est de l'ordre de la particule par centimètre cube. Donc là aussi, c'est impossible à reproduire au laboratoire. Ce qu'on appelle l'ultra-vide au laboratoire, c'est de la matière super dense par rapport au milieu interstellaire. Et donc, au début, l'éjecta, il ne sent pas qu'il y a ça. Puis quand même, au bout d'un moment, le milieu interstellaire, c'est très grand, et donc il accumule de là-bas, il balaye de la masse, il accumule, et puis au bout d'un moment, ça va avoir un effet sur lui, ça va le freiner. Et en fait, on a un peu la même physique que dans les supernovas, de même que l'explosion de la supernova, au bout d'un moment, elle est freinée et elle produit le reste de la supernova du crabe. Eh bien ici, l'éjecta va être freinée par l'environnement, et c'est ça qui va produire la rémanence, la lumière qu'on observe après en X et en visible. Et pourquoi ça décroît au cours du temps? Parce qu'au début, le choc est très violent, et puis ça freine, ça s'épuise, et puis ça s'éteint. Et donc, voilà. Et ça, voilà. Alors ça, c'est grande ligne de ce que je viens de vous décrire. Ça marche très bien. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vous montre pas, mais on sait le modéliser. Hein. Là, par exemple, c'est des calculs détaillés qui sont faits à l'IAP, où on est capable de modéliser précisément les photons qu'on attend en fonction de leur énergie, etc., et comparer avec les observations. Autre exemple, je vous ai donc parlé du moment où ça devient transparent, la photosphère, et puis des chocs qu'on appelle internes qui produisent le sursaut. En 2002, à l'IAP, on s'est dit, au moment où ça devient transparent, est-ce que quand même il ne peut pas y avoir une petite émission à ce moment-là, cette fois thermique, comme l'émission thermique à la photosphère du Soleil? On l'a calculé en la comparant avec l'émission des chocs internes, et on a prévu qu'on devait plutôt être dans cette configuration-là, c'est-à-dire une émission thermique en rouge, beaucoup plus faible que l'émission des chocs internes, l'émission gamma en bleu. Et puis, très récemment, on est très content parce que Fermi a réussi à détecter cette émission thermique qui, vous voyez, est beaucoup plus faible, et c'est en assez bon accord avec notre prédiction théorique de 8 ans avant, ce qui est toujours assez agréable. Ce n'est pas si souvent en astrophysique, quand on fait de la modélisation, généralement, on explique a posteriori et rarement à l'avance. Alors voilà, donc si on fait un bilan, eh bien, en gros, les grandes lignes du scénario que je vous ai décrit, ça marche bien, on reproduit bien la phénoménologie observée, mais après, entre spécialistes, on n'est pas du tout d'accord sur tous les détails. Je ne vais pas rentrer dans ce... Non, c'est assez bien. Et donc voilà, et c'est pour ça, peut-être certains d'entre vous se sont demandé pourquoi sur mon premier transparent, j'avais mis cette belle peinture, de belle toile de Kandinsky. Ben parce que Kandinsky, en 1923, a eu une belle anticipation de ce scénario pour les sursauts gamma. Vous reconnaissez le jet relativiste, l'onde de choc qui se propage dans le milieu extérieur et qui est responsable de la rémanence. Et puis vous voyez aussi que Kandinsky suggère que sans doute il y a encore une physique à découvrir qu'on n'a pas mis dans le scénario. Il y a pas mal d'ingrédients mystérieux qui ne sont pas encore identifiés. Voilà. Alors, si j'ai peut-être 5 minutes encore et je m'arrête, juste pour conclure, on pourrait se dire, est-ce qu'il faut croire à ce que je viens de vous dire? Il n'y a pas d'image. Il a juste, le monsieur, il a une courbe de lumière avec des photons au cours du temps, ça dure 10 secondes, et puis il nous raconte un truc, un trou noir, un jet relativiste. Bon. Vous pourriez être sceptique, je le comprendrais. Alors déjà, on pourrait se dire, c'est quand même des ingrédients, des trous noirs. Est-ce qu'il y a vraiment des trous noirs? Des jets relativistes, ça existe dans la nature. Alors ça, quand même, oui. Alors, très rapidement, bon, les trous noirs, vous savez que c'est une des grandes prédictions de la relativité générale, du Einstein. On sait justement que les trous noirs, théoriquement, si on regarde la matière qui tombe sur un trou noir, c'est effectivement un phénomène très énergétique qui libère beaucoup d'énergie. Et c'est grâce à ça qu'on observe les trous noirs. En fait, les trous noirs, on n'observe pas directement le trou noir, puisque comme son nom l'indique, le champ de gravité est tellement fort que la lumière ne peut pas s'en échapper. Mais ce qu'on observe, c'est la matière qui tombe sur le trou noir et qui tombe en dégageant une énergie colossale. Et donc, on voit plein de sources dans l'univers qui sont associées à ça. En particulier, les noyaux actifs de galaxies ou dans notre galaxie, ce qu'on appelle les binaires X. On a aussi des observations qui sont vraiment presque directes pour dire qu'on a un trou noir. Si vous vous souvenez d'une de mes toutes premières images, je vous ai montré le centre de la galaxie. Avec le centre de la galaxie, ce n'est pas très facile à observer dans le visible parce qu'il y a beaucoup d'absorption due à la poussière dans le milieu interstellaire. Mais par contre, si on observe dans le domaine du proche infrarouge, c'est ici fait au VLT, et si en plus on utilise donc un super instrument, le VLT, que bien évidemment on met de l'optique adaptative qui permet d'avoir une qualité d'image exceptionnelle, eh bien au lieu de voir un énorme patatoïde brillant qui serait la superposition de toutes les étoiles dans le coin, on résout les différentes étoiles et on regarde le mouvement des étoiles dans la direction du centre de la galaxie. Et je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà vu ce film, mais je ne m'en lasse pas. Alors, si j'arrive à le lancer, bien sûr. Aïe. Pourquoi il ne veut pas démarrer? Ah oui, je sais pourquoi. Alors, je vous demande une seconde. Voilà, je vais le relancer comme ça. Et là, ça va marcher. Voilà. Vous avez donc chaque point ici est une étoile. Et la croix indique la direction du centre de la galaxie. Et en fait, le film est très accéléré. C'est des observations qui se succèdent pendant plusieurs années. Et on suit le mouvement des étoiles. Alors déjà, vous avez peut-être entendu parler de l'orbite keplérienne, l'ellipse. Mais là, vous voyez en direct l'ellipse, d'accord. Vous voyez qu'il y a une étoile qui fait une superbe ellipse. Quand on regarde de près, donc c'est la fameuse étoile S2, quand on regarde de près, il y a des choses assez bizarres dans cette ellipse. Alors, il y a un truc que vous ne pouvez pas calculer facilement. Il faudrait que vous connaissiez l'échelle de l'image et puis il faudrait que vous regardiez le nombre d'années qui défilent. Mais au moment où ça va le plus vite, là, au moment où c'est en bas de l'orbite, au moment du passage au plus proche de l'astre qui fait tourner, eh bien, la vitesse de l'étoile est de 2% de la vitesse de la lumière, ce qui n'est pas tout à fait habituel pour une étoile. Donc là, on dit déjà qu'il y a un truc bizarre. Puis ensuite, ben, avec les lois de Kepler, on sait que ce qui fait tourner l'étoile, normalement, on doit le chercher au foyer de l'ellipse. Alors, le foyer de l'ellipse, il est au niveau de la croix. Alors, vous pourriez me dire, non, le foyer de l'ellipse n'est pas du tout au niveau de la croix. C'est quand même un peu de géométrie. Clairement, le foyer n'est pas au niveau de la croix. Mais il ne faut pas oublier qu'en astronomie, les ellipses sont souvent projetées. On les voit rarement exactement de face. Et l'effet de projection peut vous donner une position apparente du foyer un peu différente. Mais donc là, le foyer, il est au niveau de la croix, ici. Et donc, si je vous montre la trajectoire obtenue, voilà le foyer. Eh bien, le foyer coïncide avec rien. C'est-à-dire que dans le domaine visible, on ne voit rien. Et dans tous les autres domaines de longueur d'onde, on ne voit quasiment rien. Le seul domaine où on voit un petit quelque chose, c'est en radio, on voit une source qu'on appelle Sagittarius A star. Et donc, a priori, ce que montrent ces observations, c'est qu'on voit un trou noir au centre de la galaxie. Et grâce à la troisième loi de Kepler, à partir de la période de l'orbite, on peut mesurer la masse du trou noir et on obtient une masse de 4 millions de masses solaires, ce qui semble montrer que dans la Voie lactée, comme d'ailleurs sans doute dans la majorité des galaxies, il y a au centre de la galaxie un trou noir supermassif. Alors ça, un jour, ça prouvera vraiment définitivement l'existence des trous noirs, parce que si on arrive à faire ça avec une qualité d'image encore meilleure, on verra des orbites d'objets encore plus près que cette étoile, et là, la relativité générale nous dit que si c'est vraiment un trou noir, comme décrit par la relativité générale, on ne doit plus observer une ellipse, mais une ellipse qui précesse. Et en mesurant ça, on pourra vraiment dire, en fait, en termes un peu spécialisés, on va faire une tomographie de l'espace-temps autour du trou noir, et on pourra dire que c'est vraiment la métrique du trou noir de la relativité générale. Alors ça, c'est les trous noirs, les jets relativistes. Est-ce qu'il y a vraiment des jets relativistes dans l'univers? Et bien justement, parmi les trous noirs supermassifs, il y a ceux, comme dans notre galaxie, qui ne sont pas très actifs. Il n'y a pas beaucoup de matière qui tombe dessus, et donc ça ne libère pas beaucoup d'énergie. Et puis il y a les noyaux actifs de galaxies, où là, il y a beaucoup de matière qui tombe sur le trou noir, et ça libère énormément d'énergie, et ça peut faire un jet relativiste. Et donc vous avez ici un exemple, avec le jet observé en radio de la radio-galaxie M87, Donc, l'image, concentrons-nous sur l'image en bas. Le point brillant central, c'est le noyau actif. Ce n'est pas résolu, bien sûr, mais c'est là où il y a le trou noir supermassif avec de la matière qui tombe. Et donc, c'est très brillant parce que cette matière, en tombant, libère beaucoup d'énergie. Et puis après, vous voyez un jet. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on voit un jet d'un côté, mais on ne voit pas un jet de l'autre. On s'attendrait à ce qu'il y ait un jet des deux côtés. Parce qu'en physique, il y a une loi très importante qu'on appelle la conservation de la quantité de mouvement, qui explique par exemple le recul du canon, ou si vous lancez très fort un objet, partez un peu en arrière. Et donc, s'il n'y avait qu'un jet comme ça, eh bien, la source centrale, on devrait la voir aller dans l'autre sens. Et on ne la voit pas aller dans l'autre sens. Donc, vraisemblablement, il y a aussi un jet de l'autre côté, mais on ne le voit pas. Alors, comment c'est possible? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le jet relativiste. Il y en a un des deux, il va dans la bonne direction, et il focalise ses photons vers vous, et l'autre, il va dans la mauvaise direction, et il focalise ses photons dans une direction dans laquelle vous n'êtes pas, et vous ne le voyez pas. Et puis au bout d'un moment, ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai décrit, le jet, il finit par être freiné par l'environnement, et donc ce que vous voyez, c'est les lobes, c'est le choc entre le jet et l'environnement. Et à cause du choc, ça freine, donc ça redevient non relativiste, et donc cette fois, ça émet dans toutes les directions, et on voit les lobes des deux côtés. Là, cette image est très belle, vous voyez la relativité, alors restreinte ici, mais en action, enfin pas que restreinte, parce qu'il y a un trou noir au centre, mais vous voyez la relativité restreinte au sens de la focalisation en action. Eh bien, c'est exactement cette physique que je vous ai décrite dans le cas des sursauts gamma. Simplement, dans le cas des sursauts gamma, on a une échelle beaucoup plus petite, alors que les distances sont comparables, sinon plus lointaines, et donc on ne peut pas du tout résoudre. Mais vous voyez que ça conforte quand même, voilà. Alors, je crois que je vais devoir conclure. Vous me poserez des questions. J'avais plein de sujets autres intéressants. J'ai abordé l'essentiel. En un mot, je peux dire que la question qui reste, c'est quelles sont les étoiles qui vont exploser en sursaut gamma? Ça, ce n'est pas du tout résolu. C'est une grande question. C'est très difficile. On peut juste dire qu'à partir du taux apparent, il n'y a qu'une toute petite fraction d'étoiles qui explosent en sursaut gamma. C'est des phénomènes très rares. À l'échelle d'une galaxie, il y a un sursaut gamma qui pointe vers nous tous les 100 millions d'années en moyenne. Donc c'est très très rare, et donc ça va être très difficile d'identifier quelles sont les étoiles qui font ça. Vraisemblablement, les sursauts longs, c'est effectivement des étoiles qui explosent, des étoiles massives, et les sursauts courts, c'est plutôt les coalescences dont je vous ai parlé. Ce qui fait des sursauts courts un sujet extrêmement intéressant en ce moment, parce que vous savez que les physiciens font énormément d'efforts expérimentaux pour détecter enfin les ondes gravitationnelles. Or, je vous ai dit qu'avant la fusion des deux étoiles à neutrons pour produire un trou noir, il doit y avoir une émission forte d'ondes gravitationnelles. Donc, dans la décennie à venir, tous les gens qui travaillent dans le domaine attendent avec énormément d'impatience, espèrent, parce que ça va être à la limite de la sensibilité des instruments, avoir un jour à la fois la détection d'ondes gravitationnelles issues d'un tel système et presque immédiatement un sursaut gamma dans la même direction. Ça serait une superbe observation. Alors, j'aurais pu vous parler du lien entre sursaut gamma et l'origine de l'or dans l'univers, mais je n'en parlerai pas. Et je vais donc juste conclure avec ce dernier transparent pour dire que là, moi, j'ai mis l'accent sur ce qui m'intéresse le plus, parce que c'est ce que je fais, qui est comprendre le phénomène. Et vous voyez que c'est des phénomènes particulièrement exceptionnels en termes de conditions physiques. Donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse particulièrement. Ça nous donne un laboratoire dont on n'aurait pas rêvé. Mais il y a plein de collègues, y compris à l'IAP, qui ont vu tout de suite un autre intérêt très important des sursauts gamma, c'est que les sursauts gamma sont tellement brillants qu'effectivement, on les voit dans des galaxies très lointaines. En fait, actuellement, si on oublie le rayonnement fossile, qui est un cas un peu particulier, la source la plus lointaine connue dans l'univers, c'est un sursaut gamma. C'est-à-dire qu'en termes de décalage vers le rouge, une galaxie à Z égale 0,3, c'est déjà une galaxie lointaine. Z égale 1, ça commence à être vraiment très lointain. Par exemple, les supernovées dont vous avez tous entendu parler pour la découverte de l'accélération de l'expansion, c'est des supernovées jusqu'à Z égale 1 à peu près. Le record pour un sursaut gamma, c'est Z égale 9. Donc là, on a affaire à vraiment... Voilà. Et donc, en termes d'horizon observable, on est presque aux confins de l'univers observable. Bon, c'est-à-dire que les photons qui nous parviennent de ces sursauts, ils ont presque voyagé toute la durée de l'univers. Donc, actuellement, on fait beaucoup d'efforts pour essayer de rationaliser au mieux la chaîne d'observation pour pouvoir vraiment exploiter ça, pour maintenant faire de la cosmologie, c'est-à-dire explorer cet univers lointain qui, pendant un très bref instant, est illuminé par le sursaut gamma. Alors, c'est très difficile parce que pour faire ça, en gros, il faut réussir à faire un spectre de très bonne qualité de la rémanence optique, donc du moment où elle est très brillante, enfin, optique ou infrarouge pour ces sources très lointaines. Et donc, ça veut dire qu'il faut une chaîne instrumentale hallucinante. Vous avez le satellite dans l'espace, il détecte le sursaut gamma. En temps réel, grâce à son masque codé, donc quand je dis temps réel, c'est moins d'une seconde, il détermine la position. Il transmet cette position au sol. Si vous savez faire, vous pouvez transmettre ça en très peu de temps. Via Internet, ça diffuse aux observatoires. Des petits télescopes robotiques, donc typiquement jusqu'à des télescopes de 1 mètre maintenant, mais entièrement robotisés, il n'y a pas une seule intervention humaine, réagissent à l'alerte, pointe dans la bonne direction. Si la rémanence est identifiée toujours en traitement automatique, la position de la rémanence, qui est bien plus précise que la position du sursaut gamma, parce que dans le domaine visible, on a des images de bien meilleure qualité, est déterminée et de nouveau transmise. En gros, là, il s'est écoulé quelques minutes depuis le sursaut gamma. Et cette fois, ça peut être transmis à des très grands télescopes, comme le VLT. Et l'idée, c'est un jour d'avoir un mode automatique aussi au VLT. Alors, ça a été fait sur quelques cas, mais les gens de l'ESO, ils ne sont pas encore super chauds pour généraliser ça. Mais il y a eu un cas où ça a très bien fonctionné et où donc, en gros, je crois, 20 minutes après, ce qui, à l'échelle du VLT, c'est formidable, le VLT a pu être dans la bonne direction et faire un spectre. Et les raies d'absorption dans le spectre, eh bien, c'est de la lumière qui a été absorbée à plein d'endroits différents le long de la ligne de visée, depuis la galaxie très lointaine, et puis aussi dans toutes les galaxies qui ont été éventuellement croisées sur le chemin. Puisque là, vous avez éventuellement, dans les cas idéaux, 10 milliards d'années-lumière de distance. Vous avez presque tout l'univers. Et donc, à chaque fois qu'on a croisé quelque chose, il y a une petite trace. Et donc, un jour, ça, c'est une science, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, par exemple, par Patrick Petitjean, ici, une science qu'on fait déjà avec les quasars. On espère un jour le faire avec les sursauts gamma. Ça commence à peine. Et l'avantage des sursauts gamma, c'est qu'ils sont encore plus lointains que les quasars. Donc, je crois que je vais m'arrêter là parce que je vois Daniel qui s'impatiente. Je vous remercie pour votre attention.
Non, pas du tout. Ça me fend le cœur d'être obligé de t'arrêter. Moi, j'aurais bien aimé que ça dure jusqu'à demain matin. Merci. Eh bien, je suppose que vous avez des questions à poser, donc c'est à vous maintenant. C'est à vous. Voilà.
Merci pour ce... C'était passionnant. Le plus proche sursaut gamma qu'on ait décelé, c'est quelle distance ?
Alors ça, c'est une bonne question. Alors, il y a un sursaut gamma très proche, enfin très proche, il est à 40 mégaparsecs, donc par rapport à ce que je vous ai dit, c'est vraiment très proche, mais qui n'est pas un sursaut gamma standard. Il est 1 million de fois moins brillant qu'un sursaut gamma normal. Donc c'est sans doute une classe de phénomènes un peu différente. Sinon, les plus proches, ils sont à un décalage vers le rouge de Z égale 0,1, ce qui reste des galaxies lointaines. Même Z égale 0,1, c'est le bout du diagramme de Hubble HST, quoi. Ça, c'est un des grands sujets de frayeur des gens qui réfléchissent à cette association onde gravitationnelle sur ce gamma. C'est que les détecteurs d'ondes gravitationnelles, vous savez, c'est très très difficile de détecter les ondes gravitationnelles. C'est des grands interféromètres, comme celui-là, comme Virgo par exemple, et il faut voir un tout petit déplacement de la figure d'interférence lié au fait que le schéma optique est légèrement modifié au passage d'ondes gravitationnelles. C'est un défi technologique hallucinant. Et donc, ça ne va pas être super sensible quand les premières détections vont arriver. Typiquement, l'horizon estimé pour la nouvelle génération, là, qui entre, enfin, ce n'est pas la nouvelle génération, c'est les mêmes détecteurs, mais améliorés, qui rentrent en fonctionnement à la fin de cette année, c'est de l'ordre de 200 mégaparsecs. Donc, l'idée, c'est que si on veut avoir des associations, il faut qu'il y ait des sursauts gamma à une distance de 200 mégaparsecs. On n'en a jamais identifié, mais on est encore très très loin de mesurer la distance de tous les sursauts gamma. Et en particulier, ce qu'on attend en association avec les ondes gravitationnelles, c'est les sursauts courts, et c'est les plus durs à localiser, donc c'est ceux pour lesquels on a le moins d'informations sur la distance. Parce qu'en gros, pour pouvoir localiser, il faut beaucoup de photons, et les courts, ils ont moins de photons que les longs, donc on ne sait pas bien les localiser. Donc là, il y a une petite tension, mais si on est optimiste, ça reste compatible avec l'idée d'une association. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Oui, j'aurais voulu savoir, il y a quelques... burst gamma, oui. Quelques sursauts gamma qui coïncident avec des supernovae.
Oui. Bon.
Mais peu.
Oui, alors c'est
très
une question
peu.
Délicate. Alors, donc ça justement, c'est un point que je n'ai pas eu le temps d'aborder, mais quand j'ai dit que pour les sursauts longs, on pense qu'ils sont associés à l'effondrement d'étoiles massives, un des arguments forts, c'est ce que vous dites, c'est que dans un certain nombre de cas, on a trouvé simultanément au sursaut gamma une supernova, et comme je vous l'ai expliqué, on sait que les supernovas, c'est des explosions d'étoiles massives. Donc ça, ça allait dans le bon sens, mais comme vous le dites, on n'a pas une association une pour une. On ne trouve pas une supernova pour tous les sursauts gamma. Alors, première chose, c'est que les supernovae, on ne sait pas les détecter aussi loin que les sursauts gamma. Donc le problème ne se pose que pour les sursauts gamma proches. Un sursaut gamma à Z égale 2, qui est typique, vous n'avez aucune chance de toute façon de détecter la supernova. Enfin, il faut vraiment mettre le paquet. Donc, ce que vous allez voir, c'est un petit bump dans la courbe de lumière dont certains vont dire oui, c'est une supernova, d'autres non. Si vous voulez vraiment une signature non ambiguë, en gros, il faut aller jusqu'à Z égale 1, mais même Z égale 1, c'est un peu difficile. Et donc, la question se pose réellement pour les sursauts gamma proches. Alors, pour les sursauts gamma proches, on a effectivement au moins un cas, je crois, sinon deux, où on a un sursaut gamma vraiment proche, long, dont on est sûr qu'il n'y avait pas de supernova. C'est-à-dire qu'on est sûr que s'il y en avait une, avec tous les moyens qu'on a mis, on aurait dû la détecter. Alors à partir de là, ben, ça pose la question du mécanisme. La difficulté, c'est que vous savez peut-être que... j'ai dit au tout début que pour comprendre l'exception, il faut comprendre déjà la règle habituelle. Et bien, la règle habituelle ici, c'est-à-dire l'explosion qui donne une supernova, si le scénario général est bien validé, je vous ai donné des arguments. Un autre argument dont j'aurais pu parler, c'est le fait qu'on prédit que dans ces explosions, il doit y avoir un flash de neutrinos et que dans un cas, la supernova de 1987, il a été détecté, eh bien, les détails ne sont absolument pas compris. On ne comprend pas du tout les détails de ce mécanisme pour produire l'étoile à neutrons et ensuite, en particulier, le rebond vers la supernova. Et comme on n'arrive pas bien à comprendre le rebond, on n'arrive pas bien à comprendre qu'est-ce qui fait que dans certains cas, on va former une étoile à neutrons et dans d'autres cas, un trou noir. Parce que s'il n'y a pas de rebond, la matière s'accumule sur l'étoile à neutrons et forcément, au bout d'un moment, elle va s'effondrer en trou noir. Et donc, on n'est pas capable de dire si on doit systématiquement, en association avec la formation du trou noir, avoir une explosion de type supernova. On pourrait dire que, par exemple, il y a en gros trois idées. L'idée de la supernova standard, c'est le cœur s'effondre en étoile à neutrons, le reste rebondit, ça fait l'explosion. C'est ce que je vous ai dit au début. L'idée extrême, où il n'y aurait pas forcément une supernova associée, c'est le cœur s'effondre directement en trou noir, puis le reste forme un disque, mais il n'y a pas vraiment d'explosion au sens supernova. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'association une pour une. Et puis, vous pourriez éventuellement avoir une région intermédiaire où le cœur s'effondre, forme une étoile à neutrons, mais qui est déjà très, très massive. Et puis, il y a donc un début de rebond, mais il y a un peu de masse qui continue à s'accumuler sur l'étoile à neutrons. Elle atteint une masse critique et elle s'effondre en trou noir, ce qu'on appelle un collapse en deux temps. Et là, vous pourriez avoir sursaut gamma et supernova. Mais ça, c'est des idées, si vous voulez. Pour l'instant, même s'il y a des gens qui ont cherché à simuler ça, on n'arrive pas à avoir grande confiance dans ces simulations, parce que ce qui validerait la simulation, c'est si, dans le cas le plus standard, elle donnait une supernova normale. Et ça, ça marche très mal. Il y a des balbutiements quand on lit la littérature des spécialistes des supernovae. On sent que les simulations ne sont peut-être plus si loin que ça d'enfin exploser. Donc les étoiles explosent dans la nature, elles n'explosent pas dans les ordinateurs pour l'instant. Voilà.
Très bien. Bon, c'est rassurant d'une certaine façon.
Un peu de science-fiction.
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas, n'est-ce pas ? Quelle devrait être la distance d'un sursaut gamma pour qu'elle détruise l'humanité, par exemple ?
Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais je me suis dit peut-être qu'on va me poser la question. Alors, cet après-midi, je me suis un peu documenté. Et alors, justement, il y a eu récemment un article d'un de mes collègues qui est un grand spécialiste sur ce gamma, qui est Tsipiran, qui a passé d'ailleurs 6 mois à l'IAP ici l'année dernière, et qui a écrit justement un article sur la contribution des sursauts gamma aux grandes extinctions. Alors lui, il généralise en plus, parce qu'il regarde sur Terre, mais il développe en plus, et il en déduit qu'il y a éventuellement peut-être eu pas de vie telle qu'on la connaît possible dans la galaxie très ancienne ou dans la région centrale de la galaxie. Bon. L'idée, c'est que le flash gamma, via des réactions chimiques dans la haute atmosphère, peut détruire en fait l'ozone, et que si vous détruisez l'ozone, ben, vous n'êtes plus protégé des UV, et vous détruisez plein de choses, et la vie très rapidement devient difficile, sinon impossible. Alors, si on calcule, on a une idée de combien il faut de joules par mètre carré pour détruire complètement la couche d'ozone. On sait à peu près combien de joules libère un sursaut gamma. Pour un sursaut gamma typique, en gros, s'il est à moins de 1 kg par sec, il devient vraiment dangereux. Alors, donc, c'est très proche. Vous avez vu les sursauts gamma dont je vous ai parlé, tous ceux dont là, ils sont à des, c'est plutôt des milliards de parsecs, c'est pas des milliers de parsecs. Donc, à l'échelle d'une galaxie, dans l'article, ils disent qu'il aurait pu y en avoir un dans les 5 derniers milliards d'années. Donc, ça pourrait éventuellement être responsable d'une extinction. Après, bien sûr, il faudrait essayer de faire des modèles beaucoup plus détaillés pour avoir une signature précise qui permettrait, parce qu'il y a beaucoup d'autres mécanismes possibles pour les grandes extinctions. Il y a des gens qui ont étudié ça, en tout cas. Voilà. Alors après, vous pouvez, si vous voulez vous rassurer, quand on... Donc je vous rappelle qu'à l'échelle d'une galaxie, l'ordre de grandeur, c'est 1 sursaut gamma tous les 100 millions d'années. Ça, c'est rassurant. Surtout un qui pointe vers nous. Et puis, quand on commence à accumuler pas mal d'observations donc de galaxies associées à des sursauts gamma, et on est en train de se rendre compte qu'il y a un biais en composition chimique. Ce que les astrophysiciens aiment bien appeler la métallicité. Vous savez que pour les astrophysiciens, la table de Mendeleïev, c'est simple, c'est l'hydrogène, l'hélium et les métaux. Et donc, on parle de métallicité. Et alors, une galaxie comme la nôtre, elle a une métallicité élevée par rapport à une galaxie très ancienne où il y a eu moins d'activité stellaire, donc moins de nucléosynthèse d'éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Et donc, il semble y avoir un biais, c'est-à-dire que plus la métallicité augmente, moins les étoiles arrivent à faire des sursauts gamma. Et le seuil semble être pas très loin de la métallicité solaire, c'est-à-dire en gros la métallicité dans la Voie lactée, enfin très grossièrement. Et donc sans doute qu'il n'y a plus de sursaut gamma possible dans notre galaxie. Alors ça, c'est une bonne question. Ça revient à la question précédente, qui est comprendre quelles étoiles donnent les sursauts gamma, donc une question très délicate. Il y a quand même l'idée qu'il faut former un trou noir. Alors ça, et on peut faire un lien avec la composition chimique, je vais essayer de vous l'expliquer. Ce qui va faire le trou noir, c'est le cœur. Or, la composition chimique a une influence sur l'évolution de l'étoile. En particulier, les étoiles massives, elles sont connues pour avoir des vents très intenses. Si vous regardez, par exemple, Eta Carinae, vous avez un cas extrême, où on ne voit plus l'étoile tellement il y a de pertes de masse. Et en fait, on sait très bien que ces vents sont poussés par le rayonnement. Donc, plus il y a d'éléments chimiques dans la matière, différents, plus il y a de raies qui interceptent la lumière et donc plus la poussée va être efficace. Et donc, plus la composition chimique est évoluée, plus le vent est intense. Et donc, ça veut dire que dans les cas d'étoiles massives à forte métallicité, l'explosion va avoir lieu dans un environnement extrêmement dense qui pourrait éventuellement empêcher ensuite le jet de surgir, de se propager. Voilà, ça pourrait bloquer l'explosion à cause de l'environnement. C'est une possibilité. Après, les spécialistes d'évolution stellaire, ils vont aussi vous trouver des effets plus fins qui vont avoir une influence sur la masse du cœur et donc le seuil pour former un trou noir. Mais il y a sans doute beaucoup d'autres effets dans le cas des sursauts gamma. C'est sans doute pas que la composition chimique. On est content avec ça parce que c'est une piste pour identifier les étoiles qui donnent des sursauts gamma. Donc il faudrait qu'elles soient pas trop métalliques. Je rappelle, c'est essentiellement de l'hydrogène quand même les étoiles. Mais il semble que vraisemblablement la rotation va jouer un rôle aussi. Vous avez vu que l'image que je vous ai décrite, c'est une image très asymétrique. Il y a clairement un axe de symétrie dans le modèle que je vous ai décrit. Et naturellement, la rotation va être à l'origine de cette dissymétrie. Donc sans doute que la rotation initiale de l'étoile joue aussi un rôle. Et puis dans les pistes explorées, c'est la troisième qui est assez explorée, c'est la possibilité que peut-être il faut que l'étoile soit dans un système binaire. Si l'étoile est dans un système binaire, ça peut en partie nettoyer l'environnement. Enfin, il y a des effets d'échange de masse entre les deux étoiles. Enfin, voilà. Mais c'est vraiment une question très intéressante, mais qui est très très loin d'être résolue. Quelles sont les étoiles qui donnent les sursauts gamma?
Mais dans la mesure où le sursaut gamma est très directionnel, il doit y avoir un nombre de sursauts gamma très élevé.
La difficulté, c'est de, pour pouvoir remonter à ce nombre, il faudrait être capable de savoir à quel point c'est focalisé. Alors, comme le mouvement est très relativiste, on pense que ce qui domine, ce n'est pas la focalisation relativiste, mais le fait que le jet lui-même a une certaine ouverture géométrique. Et donc, il faudrait pouvoir mesurer cette ouverture géométrique. Alors, comment faire? Et bien là encore, on peut utiliser la relativité. Si vous imaginez un objet qui vient vers vous à vitesse relativiste, et donc vous le voyez parce qu'il focalise ses photons vers vous, mais vous ne voyez que la petite région qui vient vers vous. Et puis comme il est freiné, je vous ai décrit un freinage, et bien il est de moins en moins relativiste, donc cette focalisation est de moins en moins efficace. Donc vous voyez une région de plus en plus grande. Si ce qui vient vers vous est une sphère, ça ne va jamais s'arrêter. C'est de plus en plus grand, mais au bout d'un moment, vous verrez toute la sphère. Si ce que vous voyez, c'est un cône, ou enfin un jet, ben, au bout d'un moment, ça va atteindre le bord. Et la région que vous pourriez voir va devenir plus grande que la vraie région que vous voyez, qui est la vraie région physique. Et donc, vous allez tout d'un coup voir une cassure dans la courbe de lumière, vous allez voir moins de photons que ce que vous apercevez, parce que le truc n'est pas assez gros. Et donc, il y a l'idée qu'en observant la courbe de lumière de la rémanence pendant le freinage, si on voit ça, c'est une sphère, si on voit ça, c'est un jet. Et plus la cassure est précoce, plus le jet est très collimaté. Donc on espère un jour pouvoir mesurer ça. Mais pour l'instant, c'est une idée, ce n'est pas encore réalisé. Une autre question, là, j'ai l'impression. Ou s'il y a... Alors, une question là, et puis après je reprends là. Ou...
Oui, on va aller pas là.
Oui. Attendez. Est-ce qu'on sait où est conservée la toile de Kandinsky que vous nous avez montrée?
Ah, alors... Je me demande si je ne l'ai pas écrit. Je vais vérifier. Ça va être facile. Non, je ne l'ai pas écrit, mais j'ai son nom. Donc, courbe et angle aigu, 1923. Donc, avec ça, vous devez pouvoir trouver. De toute façon, les Kandinsky, ils sont soit à Munich, mais ce n'est pas cette période-là, soit ici à Paris, soit à New York. Donc, voilà. Il y avait une autre question là, je crois, oui, pardon.
Est-ce que ça serait possible qu'un sursaut soit parfaitement collimaté? C'est-à-dire qu'il n'y ait aucune...
Alors, vraiment fin, quoi.
Oui.
Alors là, justement, dans ce cas-là, ça devient de la physique des particules. C'est-à-dire que c'est un truc tellement petit que c'est uniquement la focalisation relativiste qui compte. Alors, on peut mettre une limite là-dessus, parce que dans ce cas-là, le facteur de Lorentz, lui, on a su l'estimer. J'ai essayé de vous faire passer les idées, même si c'était un peu compliqué, pour savoir comment on pouvait estimer le facteur de Lorentz. Et donc, on sait estimer la focalisation. Si c'était ça, on saurait parfaitement quelle est la l'angle de focalisation. Et donc, à partir du taux apparent, on pourrait corriger pour remonter exactement à ce que demandait Daniel, combien il y a de sursauts gamma dans l'univers, y compris qui ne pointent pas vers nous. On pourrait savoir ça. Et dans ce cas-là, on trouverait qu'il y en aurait un nombre équivalent au nombre de supernovas. Ce qui ne colle pas, parce qu'on sait très bien que la majorité des supernovae, elles donnent des étoiles à neutrons et des restes de supernovae qui sont observés. Donc on peut exclure cette possibilité, qui a été proposée pourtant, mais qui est maintenant exclue. Voilà. Donc même si on comprend pas tout, on peut déjà éliminer des choses. C'est sympathique.
C'est très riche, hein, tout ce qu'on peut obtenir à partir de 20.
Oui, oui, je vous rappelle, on a 10 secondes d'enregistrement d'un nombre de photons par seconde.
Oui, c'est extraordinaire.
Et un spectre aussi. Il y a beaucoup de choses qui viennent du spectre. Bon, je vous ai épuisé.
Voilà, il y a une dernière question, et puis ensuite, on va se dire au revoir.
Oui, je voudrais savoir si les sursauts gamma peuvent laisser des signatures. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut voir après qu'il y a eu un sursaut gamma, il y a 1000 ans, etc. Et par rapport aux extinctions massives, est-ce qu'on pourrait prouver qu'une extinction massive est due à un sursaut gamma?
Alors ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire, je vous ai montré un reste de supernova. Est-ce qu'il existe des restes de sursauts gamma? Alors ça, les gens l'ont simulé. La difficulté, c'est qu'au début, c'est un jet. Et ça reste un jet tant que c'est relativiste. Parce que là, c'est encore un effet de la relativité. Quand on regarde qu'est-ce qui fait qu'un jet peut éventuellement s'élargir, c'est les mouvements du fluide qui vont se faire typiquement à la vitesse du son. Mais à cause de la relativité, la vitesse du son dans le référentiel fixe du laboratoire dans la direction transverse, elle est divisée par le facteur de Lorentz, qui est très élevé. Donc c'est négligeable. Donc au début, ça reste un jet. Puis ensuite, ça freine. Et donc c'est de moins en moins négligeable. Et le jet, il s'élargit de plus en plus. Et quand on regarde ce qu'il devient, eh bien, au bout de 1000 ans, 5000 ans, il devient quasi sphérique et ça devient extrêmement difficile de le distinguer d'un reste de supernova. Donc les gens essayent, mais pour l'instant, donc il y a forcément des restes, mais pouvoir les distinguer, d'abord il faut les trouver, parce que si vous voulez, s'il y a par exemple un sursaut gamma pour 1000 supernovae, ça veut dire qu'il faudrait faire un catalogue de plusieurs milliers de restes de supernovae pour avoir une chance d'avoir quelques restes de sursaut gamma. Et puis après, il faudrait être capable de dire qu'est-ce qui va le distinguer. Et il n'y a sans doute pas grand-chose qui le distingue. Donc c'est une bonne question, mais malheureusement, dont la conclusion est un peu déprimante.
Oui, mais la conférence n'était pas déprimante du tout. Et on te remercie encore une fois. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, bonne soirée. N'oubliez pas de vous inscrire pour la prochaine conférence au mois de juin. Et à très bientôt.